Bien.
Bonjour à tous.
Oui, je vais introduire 2 minutes et puis on vous donne la parole ensuite. Voilà. Vous me voyez là ?
Je vous vois, oui.
Parfait. Bonjour en tout cas. Merci de votre présence. Alors, merci et bonjour à tous et à toutes. On va donc commencer cette table ronde, alors justement par une vision Skype. Donc c'est Marie Gaspa, si je ne me trompe, donc Théâtre des Origines, dont j'avais entendu parler, moi, lors d'une rencontre à la Maison des Cultures du Monde, je crois que c'était à Paris, boulevard Raspail. Je ne sais pas si c'est vous qui participiez, justement, sur le patrimoine immatériel.
Oui.
Et donc, je trouvais que votre démarche était tout à fait originale, mais je ne vais pas la dévoiler, je vais vous laisser nous la présenter. À vous.
Entendu.
Vous souhaitez que je passe la vidéo maintenant
ou... Bah, si ça vous va bien, je vais faire un bref historique de la compagnie. Et ensuite, oui. Je vais présenter cette fameuse démarche particulière avec le biais de la vidéo.
D'accord.
Donc, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui sur Skype. Je vais vous présenter donc le Théâtre des Origines, qui est une compagnie assez jeune, mais quand même, on a 12 ans d'existence. Donc, il a été créé à l'origine par un collectif d'artistes chercheurs qui souhaitait se poser la question du lien entre le patrimoine vivant et la création artistique sur un territoire défini qui est le territoire occitan. Donc le territoire d'une langue, d'une culture, qui mène à la fois des recherches sur des symboliques de cette culture et à la fois aussi sur la création actuelle, donc pas que sur le patrimoine. Donc pendant 12 ans, la compagnie a œuvré sur un projet nommé Temporade, qui signifie en occitan le cycle des saisons. Et ça a été plus de l'ordre d'un laboratoire expérimental sur la restauration des rituels festifs. Et donc ce laboratoire a eu lieu à Pézenas pendant ces 12 années. Et donc à travers ce travail sur Pézenas, on a pu soit recréer des fêtes oubliées, soit redonner un souffle nouveau à des fêtes qui commençaient à battre un petit peu de l'aile. Donc, entre autres, une des fêtes qui a été recréée, c'est la Saint Blaise, donc la Saint Blaise, le saint patron de Pézenas, qui est un rituel d'ouverture de la saison carnavalesque. Le carnaval sur Pézenas étant encore très, très vivace et toujours très vivace et très actif. Ensuite, dans un second temps, on s'est attelé au rituel du solstice d'été et de la Saint-Jean. Et dans un dernier temps, un tout petit peu plus tard dans la démarche, on a travaillé autour de la fête des morts. Et en fait, on l'a totalement créé de toutes pièces à partir d'un travail de recherche sur des personnages traditionnels ou bien sur des travaux qui ont été faits autour de la mort, comme les travaux de Dario Fo en théâtre, ce genre de choses. Donc ce travail pendant 12 ans, nous a mené donc à s'interroger sur la question du rituel et du théâtre, et ces rituels étant partagés avec la communauté qui venait au spectacle. Et donc le terme de spectacle n'est plus tout à fait le terme que l'on emploie, parce qu'on parle plutôt de spectacle rituel, étant donné que la population qui vient voir le spectacle est soit investie en amont du spectacle, soit est partie prenante pendant le spectacle, ne peut pas rester les mains dans les poches, étant donné que ce sont des spectacles de rue qui se font en déambulation et que les scénettes impliquent systématiquement la population. Donc, ce travail-là sur Pézenas a eu lieu pendant 12 ans. En novembre 2014, nous avons changé de lieu, mais le travail continue, c'est-à-dire qu'on a pu ensemencer ces trois rituels festifs et qui continuent par le biais d'un autre collectif qui n'est pas une compagnie professionnelle. Et donc, on peut dire que la population de Pézenas s'est emparée de ces rituels et en a fait des rendez-vous obligatoires de la ville. Donc le projet Temporade continue avec le Théâtre des Origines, mais cette fois dans une volonté volonté de travailler en itinérance, c'est-à-dire que le travail qu'on a mené pendant 12 ans sur Pézenas nous a permis un petit peu de se faire un bagage avec lequel maintenant on se permet d'aller ensemencer un peu ailleurs. Et pour donner quelques exemples, on est allé faire le carnaval à Brantôme. Donc ça, c'est dans le Périgord, où il y a tout un tas d'autres codes carnavalesques, mais fort de notre propre carnaval à Pézenas, on a pu aller ensemencer là-bas. Ou bien on a fait des Saint-Jean à Marvejols ou à Puisserguier ou à Mireval, dans d'autres lieux aussi, en se servant de cette sorte de fonds qu'on avait collecté pendant ces 12 ans sur Pézenas. Donc ça, c'est pour la partie historique. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions ou si je continue ma présentation.
On va continuer et puis on passera aux questions ensuite. Oui.
Oula, je vous entends très mal. Bon, j'ai cru comprendre que je continue.
C'est ça. Continuez.
Oui. Donc, c'est juste pour parler, pour continuer, pour parler en fait de la question ethno-scénologique. Parce que pour nous, recréer un rituel, à la fois il y a de la création, mais à la fois il a fallu faire des recherches. Et ces recherches, on a tiré plus dans l'ethnologie et cette partie-là qui est l'ethno-scénologie, qui se veut être un lien entre les humains et l'invisible, d'où notamment la question de ce terme de rituel qui en général peut faire penser au christianisme ou à ce genre de rituel, mais en fait ce sont des rituels systématiquement païens. Donc en puisant dans le répertoire des rituels festifs et de cette pratique performative en Occitanie et en Méditerranée, le théâtre des origines a essayé de faire naître une rencontre perpétuelle entre le spectacle et le rituel, et en nourrissant ainsi sa créativité et le corps de l'artiste. Donc la compagnie engage alors une recherche artistique sur le jeu de l'acteur méridional. Donc qu'est-ce que c'est qu'un jeu d'un acteur qui se veut populaire, qui se veut être une sorte de... en lien entre la population et des figures traditionnelles ou des figures mythologiques qu'il met encore. Ensuite, le travail de l'acteur qui est mené par la compagnie prend racine dans les traditions qui remontent à ce qu'on appelle l'actaire ou le saltaire ou encore le jongleur, c'est-à-dire celui qui joue, qui danse, qui mime, qui chante et qui transmet à la fois. Donc celui qui porte l'art populaire au cœur de la cité et dans une volonté de partage, d'interculturalité et de transdisciplinarité. Donc dans cette recherche, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas parler d'une sorte d'artiste tout-puissant qui vient donner sa bonne parole, mais plutôt d'un partage avec les personnes. Et donc ce travail s'organise avec des systèmes d'ateliers ou de stages en amont des spectacles et qui permet en fait de créer des systèmes de personnages et de cœurs qui fait qu'au lieu d'arriver une compagnie et de présenter en frontal un spectacle, ben, la compagnie se mêle à la population se mêle à la compagnie, et le jour J, on a des cœurs de personnages qui sont issus de la population. Donc, ce que je voulais vous proposer en suivant, c'était vous donner l'exemple concret de ce qu'on a fait à la Saint-Blaise. Donc, ce que vous allez voir dans la vidéo, ça n'est pas la première Saint-Blaise, je vous rassure, ça a été un travail de longue haleine avant d'arriver à ce résultat. Mais c'est ce qu'on a de plus probant au niveau vidéo pour montrer la participation du public. Donc je vous laisserai juste regarder cette vidéo, mais avant cela je vous indique juste ce qu'il faut essayer de voir à travers cette vidéo. Donc d'un côté vous allez voir des personnages qui s'appellent les capitouls, qui sont symboliquement les chefs de quartier qui doivent donner les clés de la ville à ce personnage rituel de Saint-Blaise pour ouvrir les portes de la ville à carnaval. Donc il faut savoir que Saint-Blaise est un amateur, c'est une figure de carnaval, que les trois capitouls sont aussi des amateurs avec qui on travaille en amont, ils écrivent leurs textes, on l'écrit en collaboration, et généralement c'est un texte qui aide à brosser un peu à contresens, quoi, à contrepoil, l'actualité du lieu. Et ensuite, l'autre gros travail qui avait été fait sur cette Saint-Blaise que vous allez voir en vidéo, c'est le travail de ce cœur de femme sauvage. Alors, les femmes sauvages, juste pour vous en dire quelques mots avant que vous les aperceviez en vidéo, c'est un cœur qui représente le réveil de la nature, l'arrivée du printemps. Et il a la fonction symbolique d'aller réveiller le Saint-Blaise, donc Saint-Blaise pour qu'il apparaisse et qu'il obtienne les clés de la ville et que Carnaval puisse entrer dans la ville. Et donc ce cœur de femme sauvage, il est venu d'un constat simple, c'est que normalement le sauvage en Carnaval est représenté par le masculin. Et il se trouve que dans les ateliers qu'on faisait, il n'y avait que des femmes. Donc on s'est dit pourquoi pas inverser les choses, vu que Carnaval c'est le lieu de l'inversion. Et donc, on s'est retrouvé à faire un cœur de femme sauvage qui allait réveiller le printemps. Donc, je vous laisse visionner cette vidéo et je vous dis à tout à l'heure.
Merci.
Peuple de la terre, bienvenue! Ce soir, encore une fois, nous allons accomplir un rituel pour dire au revoir à Sinistre Hiver et bonjour, messieurs, bon printemps. C'est un plaisir. Grâce à lui, nous allons guérir trois clés et alors la fête pourra commencer. Messieurs, mesdames, Baki, San Blasi, je vous demanderai, peuple de la terre, de l'invoquer avec moi. Le Saint-Patron de Pézenas. pas grand-chose, là, à Saint-Blaise. Hein?
Je dis que quand tu parles, tu dégages du gaz méthane de Parisien.
Oui,
mais
non,
non,
non.
Mais sachez que les clés de gauche, elles ne jouent que les portes ouvertes. Les clés de droite, elles ne ferment que les portes fermées. Et les clés du centre, elles se cassent dans la cible. Allez, tenez.
Notre déesse animale offre à l'Hermès, meneur, agile, brave et vaillant de notre beau poulet, un présent. Viens, meneur, viens et accepte le frappe de notre déesse animale.
Viens ici, toi le plus vieux animal totémique de l'humanité, que je te déforme de l'ordre du comité de présidence. Buvez, mangez et sautez sans modération. Vive le carnaval!
Bien, vous êtes de retour.
Ah, entendu.
Vous voulez répondre ?
Donc voilà, ça c'est un exemple d'une de ces fêtes recréées avec la participation du public, avec une ambiance très carnavalesque qui n'est pas forcément présente dans tous les événements qu'on fait, mais qui fait vraiment partie de l'essence de la compagnie. Parce qu'on a aussi des créations, on va dire, clés en main, des créations jeunes publics qu'on peut jouer dans n'importe quel territoire et à n'importe quelle saison. Mais c'est vrai que la question du sur-mesure dans la compagnie s'est posée à partir du moment où on a commencé à essayer d'aller jouer ailleurs qu'à Pézenas. Et donc, ça nous semblait bizarre de faire des copier-coller d'un spectacle rituel dans un autre lieu sans tenir compte de son patrimoine, que ce soit le patrimoine culturel immatériel, de ses mythes, de ses petites histoires. Voilà.
Merci. Peut-être quelques questions dans la salle. En tous les cas, moi j'en ai une, mais vous y répondrez après. Hein. Vous avez parlé de l'intervention à Brantôme. Comme Brantôme fait partie de la Nouvelle-Aquitaine, notre nouvelle région, vous pourrez peut-être en dire deux mots, je ne sais pas. Est-ce que ça continue ? Est-ce que ça, après avoir ensemencé, comme vous dites, comment est-ce que ça se poursuit ? Mais on va peut-être prendre des questions d'abord, s'il y en a.
Entendu. Alors juste une question technique. Quand vous parlez dans le micro, j'entends très mal. Je crois qu'à voix nue, j'entends mieux, d'accord. Presque. Oui, ça fait un drôle d'écho.
Alors, je vous dis simplement que par rapport à Brantôme, qui est dans notre...
Entendu. Merci. C'est vrai que je vous entends mieux comme ça.
Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? allez-y alors, peut-être. Répondez.
Entendu. Alors, au sujet de Brantôme, donc ça a été un travail qu'on a fait en partenariat aussi avec des ethnologues du lieu. Donc, je pense par exemple au couple Pauvert qui nous a donné pas mal d'éléments sur les rituels carnavalesques dans ce lieu. On a fait aussi appel à un partenariat avec les souffles à cul de Nontron. Donc, on a invité les voisins, parce que vraiment, ils sont juste à côté. Enfin, comparé à nous, ils sont juste à côté. Donc, on a invité les voisins à venir faire aussi leur rituel des souffles à cul. Donc, nous, par chez nous, on appelle ça la buffatière. La danse des soufflés qui se fait un peu partout, d'ailleurs, en pays occitan. Et donc, en fait, on a eu le culot d'inviter les voisins à un endroit où nous-mêmes, on était invités. Et ça s'est très, très bien passé. Et donc, on a essayé de travailler... sur un aspect qu'eux-mêmes ont présent, c'est-à-dire le principe du roi carnaval. Et donc là-bas, il n'a pas du tout été question de femmes sauvages ou de ce genre de choses parce que ça aurait été un copier-coller qui ne fonctionne pas. Par contre, la cour du roi carnaval était constituée également essentiellement de femmes parce que ben voilà, ça s'est trouvé comme ça. On a fait des ateliers avec la population, il s'est trouvé que c'était vraiment quasiment que des femmes. Donc, on a eu la cour du roi à Carnaval avec toutes ces outrances et ces choses-là. Et puis, ça a tellement marché qu'ils ont fait, en suivant, une exposition des photos et de certaines choses qui ont été fabriquées pendant Carnaval. Donc, voilà, je pense qu'on a lancé un petit peu la chose et on va voir si on y retourne. Pour l'instant, ce n'est pas acté qu'on y retourne. Mais on est déjà invité au Carnaval de Nontron, justement, celui des souffles à cul. Donc... voilà, pour une première, c'était vraiment un régal pour tout le monde, autant pour eux que pour nous.
D'accord. Pas d'autres. Sinon, on va vous libérer parce que je sais que vous avez des contraintes.
Oui, je suis un peu.
Voilà. En tous les cas, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Et puis, merci à vous.
Restons en contact. Et puis, Nontron est en. J'ai bien noté Nontron, donc on essaie de contacter.
Entendu. Ben, je vous remercie et bonne continuation. Au revoir.
Bien, et pendant ce temps-là, je demanderai à Cécile Desgrois donc, de venir peut-être ici, prendre place et de nous présenter donc, le Festival Philosophia de Saint-Émilion.
Bonjour à tous. J'ai quelques images en fait. Alors c'est trois fois rien, mais c'est juste histoire d'illustrer un petit peu. Ça parle peut-être toujours un petit peu mieux quand il y a des images à l'appui éventuellement. Donc pendant qu'elles arrivent, c'est un petit peu lourd peut-être. Hein, donc ça va peut-être mettre le. Donc le Festival Philosophia, c'est un festival qui est né il y a 11 ans. On a fait, c'est fin mai, tous les ans à la fin du mois de mai, et on a fait la 11e édition là, cette année. Le principe, c'est 4 jours, 4-5 jours, autour d'un thème. On choisit chaque année un grand thème qui soit une grande notion philosophique au sens très large du terme. Et puis on la décline ensuite selon de multiples axes. On essaie d'avoir un panel le plus large possible, complet, c'est très difficile, mais en tout cas le plus large possible, de manière à faire intervenir des philosophes, mais pas que, beaucoup également de sociologues, anthropologues, scientifiques, artistes, etc., des littéraires, enfin voilà, vraiment tout panel d'intervenants qui, chacun dans leur discipline, dans leur recherche, peuvent nous apporter un éclairage sur la notion que l'on propose. Voilà. À l'origine, le festival, c'est une rencontre entre Eric Le Collen, qui est l'initiateur du festival en 2007, et d'une rencontre de hasard. Alors, on en parlait tout à l'heure, effectivement, provoquer les hasards. Eh bien là, c'est effectivement un heureux hasard qui a été généré quelque part par la région, alors l'ancienne région Aquitaine, entre Eric Le Collen, le fondateur, qui n'est pas philosophe, je tiens à le signaler, mais j'en reparlerai tout à l'heure, avec le même festival Philosophia, qui existe en Italie, à Modène. Alors, sur le même modèle dans les objectifs et dans l'esprit, mais pas du tout dans la réalisation, enfin, pas du tout dans la réalisation. Dans les formats, si. Mais Modène, c'est une ville qui est, alors ma référence c'est Bordeaux, qui est un peu plus grosse que Bordeaux. Et eux, sur 3 jours, reçoivent à peu près 150 000 spectateurs. Nous, sur Saint-Émilion, et maintenant sur un territoire un tout petit peu plus élargi, puisque on cherche à développer, je vous parlerai également du développement un peu plus tard, le territoire qui va de Libourne, Pomerol, Saint-Émilion, donc on est sur un territoire d'une trentaine de kilomètres, je dirais à peu près d'un rayon de 30 kilomètres à peu près. On est sur 5 700 spectateurs cette année. Alors la volonté n'est pas du tout d'arriver à des chiffres de fréquentation tels qu'ils sont à Modène. D'abord, on n'en aurait pas la capacité, puisque Saint-Émilion, c'est un village, c'est vraiment un tout petit village. La plus grande salle que l'on utilise fait 350 places. Donc on a des possibilités d'extérieur, bien évidemment, qui sont à ce moment-là plus importants, mais tout organisateur ou peut-être que vous êtes ici savent ô combien les contraintes de l'organisation en plein air, avec une obligation forcément d'un lieu de repli. Donc effectivement, on se limite à ces jauges-là. Le festival a été créé donc en 2007 avec un partenariat européen, c'est-à-dire que Modène était chef de file sur un dossier européen d'un de ces fameux Culture 2000 qui existait à l'époque, et donc nous a embarqué avec notre création de festival également avec dans leur projet. Et puis on a continué. On a toujours, de loin en loin, maintenant, selon nos programmations, des contacts avec Modène. Se sont créés d'autres contacts avec la Belgique également. Et on se considère toujours, en tout cas, sur le format et sur les objectifs, le petit frère de ce qui se passe en Italie. En Italie, il y a une autre tradition de l'oralité et de la philosophie qui n'est pas la nôtre ici en France, ou en tout cas qui ne l'était pas il y a 11 ans. Parce qu'il y a 11 ans, créer un festival de philosophie sous ces formats-là, c'était quand même une sacrée gageure et c'était pas gagné. On avait un peu moins de 1500 personnes la première année, ce qui était déjà pas mal, effectivement, pour un petit week-end. Et puis, petit à petit, on arrive effectivement à 5700 personnes aujourd'hui. Quoi vous dire d'autre sur l'historique? Donc la déclinaison en fait du week-end, ça se fait avec des rencontres qui sont bien concentrées sur le week-end. Hein. On commence le mercredi, donc c'est du mercredi au dimanche, c'est quand même concentré sur le week-end. La semaine, on a des rencontres qui sont sur la ville d'à côté, sur Libourne. Et puis qui est donc une des sous-préfectures. Et puis on fait un petit détour par Pomerol, puisque le syndicat viticole est partenaire du festival. Et puis ensuite, on décline vraiment le festival sur Saint-Émilion. Cette année, pour la première année, puisque c'est un axe qu'on travaille beaucoup, on développe au niveau du territoire. Et donc, on a eu des actions qui ont lieu sur un autre petit village à côté de Saint-Émilion. Qui fait partie de la communauté de communes. Alors, le principe du festival, dans les très grandes lignes, hein, après, si vous avez des questions, on verra, ce sont effectivement des lieux, des lieux insolites, dans le sens où on est avec un objectif qui est d'ouvrir la philosophie au plus grand nombre, pour des gens, alors un festival pour des philosophes, mais également pour des néophytes en philosophie, des amateurs total, et qui est fait par des gens qui ne sont pas des philosophes, à la base. C'est-à-dire qu'Éric Le Collen n'est pas philosophe, c'est un scénographe de formation, musicien et scénographe. Et je ne suis moi-même, donc qui ai pris la relève maintenant depuis quelques années d'Éric Le Collen, je ne suis moi-même pas de formation philosophique. D'aucuns diront que c'est peut-être un avantage. Je ne sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, effectivement, ça crée peut-être une autre dimension et ça provoque une autre ouverture sur les domaines philosophiques. Autant vous dire qu'il y a 11 ans, les rapports entre le festival et l'université, par exemple, n'étaient pas forcément des plus simples. Et ça n'a pas été une évidence de créer des passerelles et de créer des liens. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus. Peut-être que aussi la naissance et le développement des manifestations telles que celle-ci autour de la philosophie, des cafés philo, et puis de cet engouement populaire au-delà de la philosophie, et c'est bien ce que nous, on cherche à défendre et à véhiculer à travers le festival, une recherche de sens, une recherche de questionnement au quotidien, vraiment, et pas uniquement sur un niveau d'élite qui ne nous parle pas, en tout cas en tant que non-philosophe. C'est peut-être ça qui a fait effectivement le succès populaire, j'oserais le dire, de Philosophia. Et puis, bien évidemment, le fait de proposer ces rencontres-là dans des lieux qui sont les lieux que l'on a à portée de main. Ce n'est pas une salle de cours, ce n'est pas un amphi, c'est les jardins que les propriétaires dans Saint-Émilion nous ouvrent pour qu'on puisse faire ça dans une petite cour. Ce sont les caves, effectivement, qu'on nous ouvre aussi. Alors, il y a deux ou trois salles qui existent quand même malgré tout, donc que l'on occupe, bien sûr, municipales ou pas, d'ailleurs. La plus grande salle est une salle qui appartient au Conseil des Vins de Saint-Émilion. Il y a un cloître également donc, qui est propriété croisée de la municipalité, l'office du tourisme et le clergé. Et tous sont tout à fait d'accord pour accueillir les conférences qu'on peut y proposer. Et ça nous permet également de proposer des choses qui sont aussi, alors qui le sont moins bien entendu aujourd'hui parce que ça se développe beaucoup, hein, mais qui étaient en tout cas atypiques à l'époque, qui sont des formats qui vont d'une capacité d'une salle de 350 personnes à 20 personnes, à des petits ateliers de rencontres de 20 personnes, voire de temps en temps d'une seule personne. Parce qu'on a effectivement donc là vous avez en bas la grande salle, cette fameuse grande salle qui est une ancienne chapelle. Vous avez des extérieurs et puis la petite roulotte que vous voyez au milieu, parce qu'on y a fait effectivement des formats qui sont des formats de consultation philosophique, donc de manière à ce que une personne soit seule avec un philosophe pour une discussion en tête à tête pendant une demi-heure, trois quarts d'heure plus éventuellement, en fonction de la liste d'attente et des gens de la queue qu'il y avait dehors. Voilà, donc c'est ce qui fait le festival, c'est tous ces lieux, c'est toutes ces rencontres. Vous me poserez des questions après, parce que voilà, connaissant par cœur, enfin, je pense qu'on est tous au même point, connaissant par cœur nos manifestations, c'est vrai qu'on oublie souvent de dire des choses qui sont absolument évidentes. Il y a quelque chose qui est, pour nous, on en parlait tout à l'heure à midi, je sais, mais tout à l'heure, ce qui est pour nous d'une évidence rare, c'est l'accueil qui est très important pour nous, que ce soit l'accueil du public ou que ce soit l'accueil des intervenants. On ne tranche en rien sur la qualité de ce que peuvent proposer les intervenants. Mais on leur demande une accessibilité au public, sachant que le public est à la fois un public de philosophes, mais est également un public qui peut juste être attiré par le titre qui est marqué, la question que ça pose, et donc l'envie d'entendre quelque chose, ou alors juste par un nom. Voilà, effectivement, quand on voit Albert Jacquard sur le programme, on se dit wow, il peut parler de n'importe quoi, je vais le voir, c'est Albert Jacquard, j'ai envie d'aller écouter ce qu'il raconte. Voilà, c'est juste une mémoire et c'est juste une transmission que j'ai envie d'entendre. Donc il y a la nécessité de cette pédagogie qu'on exige des intervenants pour qu'ils puissent être transmis. Ça aussi, ça participe, je pense, du fait que les gens peuvent se retrouver assez facilement dans... C'est un exercice qui est très compliqué hein, pour certains intervenants, et je ne vous cache pas que certains d'ailleurs n'y arrivent pas. C'est pas forcément toujours gagné, mais effectivement ça participe du fait que les gens peuvent se retrouver vraiment sur une manifestation comme celle-ci, qui est à la base un festival de philosophie. Beaucoup se disent bah, c'est peut-être pas vraiment pour moi. Une fois qu'on a passé déjà l'étape de festival et philosophie, ça marche peut-être pas forcément ensemble. Donc une fois qu'on a déjà compris qu'effectivement ça pouvait marcher ensemble, après il y a le deuxième pas de ça reste quand même de la philosophie. Donc ce qui est très important également aussi, et ce qui fait le festival, c'est la bonne humeur. Les intervenants sont reçus un peu comme si on les accueillait en famille. On a envie qu'ils restent avec nous. On les convie à venir et à rester pendant tout le week-end. Ce qui permet, alors le lieu n'y est pas étranger, hein, mais ce qui permet dans un petit village comme ça que le public et les intervenants peuvent se croiser autour d'un café ou au restaurant. Quelqu'un n'a pas eu envie de poser sa question devant tout le monde après une intervention, ou n'a pas eu le temps d'aller faire signer son bouquin à la fin de l'intervention, on le recroise à la terrasse du café ensuite, et on peut très bien aller... En général, le fait que les intervenants soient accueillis comme ça, ça leur fait une pause. Très souvent, alors c'est des petites anecdotes qui sont qu'on a vécues tout au long du festival, mais des années comme ça, mais très souvent, on se rend compte qu'en fait ils se connaissent, c'est sûr, mais qu'ils n'ont que trop rarement l'occasion de se retrouver et de se poser tous ensemble. En tout cas de se poser ensemble et de se retrouver ensemble et d'avoir l'occasion de discuter. Alors c'est vrai que c'est pas évident à faire parce que ça demande quand même une organisation, ça demande un budget aussi. On n'accueille pas des 30 personnes comme ça sur un week-end sans avoir un budget qui va avec, ça c'est évident. Mais voilà, ça provoque des lieux et des rencontres. Donc, par exemple, j'en ai un exemple qui me traverse la tête, mais André Comte-Sponville et Marcel Conche, qui se sont retrouvés, qui ne s'étaient pas vus depuis des années, qui se sont retrouvés dans le cadre du festival, qui ont passé la journée et la soirée ensemble, et qui finalement, j'ai appris que dans l'été, l'un déjeunait chez l'autre et qu'ils avaient un bouquin en préparation ensemble. Bon, voilà, ça c'est des petites choses qui font effectivement qu'on peut dire ensuite il y a un intérêt vraiment et il y a un intérêt à les faire vivre ça sur le territoire. Autant pour eux, ils se sentent bien là et ils ont envie de revenir, mais vraiment aussi pour le public qui a la possibilité vraiment de les croiser, de les croiser dans des conditions qui sont quand même assez idéales parce qu'ils sont beaucoup plus, ils ont beaucoup plus le temps en fait, voilà, tout simplement. Donc effectivement, c'est quand même assez idyllique comme cadre, je le reconnais. On est à Saint-Émilion, c'est pas non plus des plus désagréables hein, pour eux, ça c'est sûr que... voilà. Faut pas se le cacher quand même. Les objectifs, je disais, c'était d'ouvrir vraiment la discipline d'une philosophie à tous. Et ça, on essaie de le faire avec des formats de rencontres qui sont les plus variés possibles. Donc on a des rencontres qui vont de la conférence extrêmement classique, etc., comme on peut en avoir effectivement en cours, hein, simplement, ou à l'université, ou en classe. On a tous nos souvenirs de classe de terminale. Voilà. Bon, il y a des conférences comme ça, c'est sûr, mais il y a aussi des choses que l'on essaie de développer le plus possible, qui participent de cette idée de rendre le plus vivant possible la pensée. et l'accès en tout cas à la pensée. Donc ça se traduit par des ateliers participatifs. Ça se traduit par des balades philosophiques, ça se traduit par des cinéphilos et des spectacles également. On a aussi beaucoup de propositions qui se font pour les jeunes, les enfants et les jeunes. On a commencé dès le début, on a commencé avec des ateliers pour les scolaires, puisque nous sommes sur une communauté de communes et sur un territoire. Alors, ça a beaucoup bougé également au niveau de la communauté de communes, mais où il n'y avait à l'époque, quand on a commencé, que des écoles primaires. Et on a commencé avec eux à faire des ateliers, ce qu'on appelle les ateliers philo-théâtre. On travaille avec une association des Landes qui propose des ateliers philo-théâtre. Donc ça se traduit par un petit quart d'heure de présentation d'une comédienne qui adapte un texte ou qui écrit un texte en collaboration avec la philosophe et en lien avec le thème que l'on a choisi. Et ensuite, il y a une discussion. Donc ça dure un quart d'heure. Et puis, il y a une discussion avec une philosophe qui dure trois quarts d'heure environ. Ces ateliers sont expressément interdits aux adultes, de manière à ce que les enfants puissent vraiment avoir une parole qui soit la plus libre possible avec la comédienne et avec la philosophe. Et puis on a essayé de développer ça, alors en partenariat avec la communauté de communes, on le faisait dans les écoles, et on a commencé à le faire également sous différentes formes, et notamment sous une forme qui est la forme d'un stage de théâtre, c'est une sorte de résidence d'artiste en fait, de philo en scène, qui a lieu pendant les vacances scolaires de la Toussaint, et qui est la mise en scène de la pensée philosophique à travers un texte de théâtre ou pas. Ça peut également être un texte, simplement un texte jeunesse, mais qui n'est pas à proprement parler un texte de théâtre ou un texte philosophique d'ailleurs. Mais il y a forcément quelque chose que l'on peut retirer au niveau de la pensée. Et puis pendant le festival, on a développé également depuis 2 ans maintenant des ateliers un peu plus longs, qui durent une après-midi entière, et où on essaie de croiser des petits et des moins petits. Ça va de 8 ans cette année, ça allait de 8 ans jusqu'à 17 ans, et où pendant tout l'après-midi, ils créent de toutes pièces un objet culturel et philosophique. Ça c'est très important parce qu'en fait on s'aperçoit que les enfants que l'on a dans les ateliers tout au long de l'année sur le territoire, on les retrouve ensuite avec leur famille, alors de plus en plus, hein, ça fait 11 ans donc c'est quand même un travail de longue haleine, mais de plus en plus on les retrouve sur le festival et ils entraînent, pour certains, ils entraînent également leurs parents à venir voir ce qui se passe. Leurs parents qui n'auraient peut-être pas fait la démarche tout seuls de venir, mais qui sont entraînés par les enfants. Parce qu'ils ont entendu à la maison également. Ils ont discuté des ateliers qu'ils faisaient pendant les vacances, des ateliers qu'ils faisaient à l'école. Et donc ensuite, ça arrive jusqu'au festival. Il y a une exposition également des dessins qu'ils font à la suite des ateliers. Donc voilà, de cette manière-là, on arrive, je dirais, à impliquer vraiment un territoire et à peut-être aussi gagner notre pari de démocratisation de cette discipline, de la philosophie, auprès d'un territoire qui n'était pas gagné du tout. Saint-Émilion, ça a la réputation effectivement mondiale que ça peut avoir au niveau du vin. Mais il faut savoir quand même que dès qu'on sort du village historique de Saint-Émilion, on est dans la ruralité la plus totale, avec tout ce que ça peut avoir de problématiques, de blocages, etc. Et le reste du territoire, à part les quelques propriétés extrêmement, extrêmement riches de Saint-Émilion, vivent les mêmes difficultés que n'importe quel autre territoire rural, sans la notoriété qui va avec la réputation du village simplement et du vin. Donc c'était important pour nous d'arriver petit à petit à travailler ça et à développer ça avec les partenaires. On a eu la chance d'avoir des gens sur la communauté de communes qui ont impulsé cette volonté de lien sur le territoire entre les différentes associations et être moteur également aussi au niveau de l'ensemble des élus qui ont pu suivre sur ces projets-là. Donc on espère que ça va pouvoir se développer avec d'autres actions. Et puis là, maintenant, on vise également des actions qui ne vont pas forcément que à destination du jeune public, mais également à destination de leurs parents, des seniors également. Voilà, j'entendais hier une émission sur France Inter qui parlait justement de cette rupture sociale qui se fait de plus en plus et de plus en plus, pas forcément que chez les seniors, mais également chez les jeunes, enfin chez les gens de tout âge. Et je crois qu'il est important et qu'il est peut-être même urgent de réagir et de pouvoir proposer des actions, quelles qu'elles soient, qui font en sorte que, avec nos différentes actions culturelles, on puisse éventuellement intervenir et faire ce qu'on peut pour aller à leur rencontre. Voilà. Alors, je vous parlais des formats que l'on a différents. Donc, effectivement, alors là, vous avez l'illustration de la balade philo. C'est pas désagréable, effectivement, d'aller se balader avec un philosophe dans les vignes de Saint-Émilion. On a des paysages qui sont quand même plutôt sympathiques. Il y a également des spectacles qui donnent lieu ou non à des discussions après, puisque au départ on travaillait avec des comédiens qui nous proposaient ou à qui on demandait de travailler sur des textes, que ce soit lecture de textes ou des spectacles réellement mis en scène. Hein, un comédien avait mis notamment en scène l'un des derniers cours de Michel Foucault. Et donc c'était pas du tout une commande, c'était un spectacle qui existait, qu'il avait créé complètement à côté et qu'on a fait jouer pendant le festival et avec une discussion ensuite avec une philosophe. On a eu les réflexions du public qui nous disaient que le spectacle en lui-même était déjà une réflexion suffisante et que certains n'avaient pas du tout envie d'avoir cette discussion après, en tout cas juste après. Donc effectivement, ça nous a fait aussi avancer dans ces propositions-là, où on s'est dit, bah, effectivement, c'est sûr que si le spectacle en lui-même, la lecture ou autre, est déjà suffisamment riche, on n'a pas forcément besoin de discuter après. Il y a plein d'autres occasions par la suite, pendant le festival, pour pouvoir en discuter. Donc voilà. Donc pour aller assez vite, pour ne pas monopoliser la parole, je dirais que le festival peut exister comme ça. Alors je vous parlais de la communauté de communes, mais c'est un ensemble de partenariats, évidemment, bien sûr. Au départ, on a eu la chance quand même d'avoir la mairie de Saint-Émilion qui n'a pas pris peur devant le projet, qui nous a dit après tout pourquoi pas. Et ce n'était pas évident quand même pour une petite municipalité comme ça qui a la double charge d'une notoriété et d'une gestion qui est celle d'un petit village. Hein. Saint-Émilion, c'est à peine 2000 habitants et encore ça, je crois que ça date un peu, donc je dirais 1500 à peu près autour aujourd'hui. Mais ils ont été présents. Et ils nous soutiennent vraiment sur l'ensemble de l'accueil que l'on peut réserver aux intervenants. Alors on a la chance sur le festival d'avoir comme soutien l'ensemble des strates, je dirais, des partenaires institutionnels, donc de la municipalité jusqu'à l'État. Via le Centre national du livre, le festival étant classé dans les manifestations littéraires. On a eu beaucoup de mal au départ, puisque ça, c'était pas évident de classer un festival de philosophie. On le classe dans quoi ? C'est pas du spectacle vivant, c'est pas à proprement parler une manifestation littéraire, mais les intervenants qui viennent sont quasiment tous à 98% des auteurs, donc ça a été assimilé comme une manifestation littéraire. Et puis vous avez vu que on a quand même très très souvent sur les images un verre à la main, donc effectivement ça c'est pas négligeable, on est à Saint-Émilion et donc le monde du vin nous soutient beaucoup. Alors on est sur un dispositif, sur un modèle existentiel qui est à 50% de financement public et à 50% de financement privé. Ça a été, je ne crois pas au départ, puisque je ne faisais pas partie de l'aventure au tout départ, mais je ne crois pas que c'était une réelle volonté au départ. Ça s'est juste fait de façon très intuitive et très naturelle, dans la mesure où il y avait par contre la volonté que le festival soit très clairement ancré dans le territoire et qu'il y ait une sorte de sentiment d'appartenance de la part des locaux sur place. Et donc les locaux sur place, eh bien, ce sont quand même pour la plupart des viticulteurs, ou en tout cas des gens du monde du vin de manière très générale. Alors aujourd'hui, les partenariats privés se sont étendus un petit peu. On a par exemple un concessionnaire de voitures qui nous prête des voitures pour faire les transferts. Enfin bon, voilà, il y a d'autres partenariats qui se font. Mais ça reste quand même essentiel. Et puis il y a toute une équipe. Alors j'en terminerai là. Il y a toute une équipe qui est une association, puisque le festival c'est une association classique, loi 1901, et qui est portée par une trentaine de bénévoles qui s'implique sur le festival. Et c'est vrai que, autant le côté financier est extrêmement important, le côté soutien vraiment des partenaires, quels qu'ils soient, financiers, sponsoring, en tout genre, en nature également, est très important, mais le festival ne pourrait pas se faire s'il n'y avait pas, effectivement, l'équipe. Et là, voilà, l'équipe, en partie, en pleine action, pour la plupart. C'est une trentaine de bénévoles qui sont là sur la quasi-totalité du festival, qui se relaient et qui sont là pour accueillir le public, pour renseigner tous les festivaliers, qui sont là pour également accueillir les intervenants, les conduire à droite, à gauche, etc. Et faire tout un travail de mise en place des lieux techniques d'une certaine partie, s'assurer que tout se passe bien, s'assurer que tout se fait. Ils ont une charte. On est très exigeant avec eux. On a des exigences qui sont quasi professionnelles, hein, avec eux. Donc de temps en temps, effectivement, ça grince un petit peu. Mais au final, ils sont. Je ne pense pas trahir leur pensée en disant qu'ils sont tous absolument ravis d'être là, de croiser les intervenants dans des conditions privilégiées également, et puis de se sentir, c'est un peu comme si c'était une famille, quoi, une bande de copains, mais une vraie famille qui se retrouve chaque année. La trentaine de ces bénévoles-là sont tous issus du territoire. On n'a pas la possibilité de les héberger, il n'y a pas d'infrastructure sur place et on n'a pas les budgets pour les héberger sur place. Donc certains font jusqu'à donc Bordeaux-Saint-Émilion, c'est une cinquantaine de kilomètres à peu près, peut-être un tout petit peu moins, et certains font ça tous les jours pour venir participer au festival et pour venir faire leur job au festival. Et donc ça va de la Dordogne jusqu'à Bordeaux, voilà, autour. Donc c'est vraiment un vrai engagement de leur part. Et voilà.
Merci.
Merci.
Est-ce qu'il y a des questions ? Merci pour cette présentation. Et notamment le rappel au Festival de Modène, qui est effectivement un festival très connu, enfin, au niveau philosophique, au niveau philo, ouais. Très intéressant. S'il n'y a pas de questions, mais vous restez à la tribune, puisqu'on va faire appel à M. Génaud. C'est un autre festival, mais sur les humanités classiques, on peut dire, peut-être. Hein, là, c'était la philosophie. On verra comment... ces deux thèmes peuvent d'ailleurs alimenter peut-être aussi des festivals de musique, des festivals d'art contemporain. C'est ça qu'on est aussi en train d'organiser. Merci de votre présence, en tous les cas. Je vous laisse donc présenter un peu cette histoire autour de Arles, qui, effectivement, est dans un cadre tout à fait exceptionnel.
Bonjour, messieurs, dames. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses pour mon très grand retard. Je suis navré, j'ai raté mon train ce matin. Donc voilà. Arles n'étant pas tout à côté, il m'a fallu patienter. Donc je vous remercie pour votre invitation et je viens vous présenter un festival qui a été créé il y a 10 ans maintenant, qui va fêter ses 11 ans cet été, qui s'appelle le Festival Art et Latte, Journée Romaine d'Arles. Alors, pour éclaircir immédiatement l'intitulé, Arelaté ou Arelate, quand on le lit, c'est le nom antique de la cité. Peut-être, on a le son sur la... Bon, alors avant de vous le présenter, je vais vous montrer un petit peu. La base est posée. Donc, je me présente plus largement. Donc, je m'appelle Monsieur Genot, Alain. Je suis archéologue au Musée départemental Atlantique, qui est un grand musée archéologique français. Et je suis l'un des membres fondateurs du festival qui vient d'être présenté. Je l'ai présidé également, et maintenant, je suis simplement bénévole au sein de l'association qui le fait vivre. Donc, la naissance de cet événement a eu lieu il y a 13 ans maintenant, petitement, le festival en lui-même 11, avec une idée qui était de pouvoir toucher un public plus large et amener les gens à découvrir le patrimoine, leur histoire, l'histoire romaine essentiellement sur Arles. Vous savez peut-être que la ville d'Arles est classée au patrimoine mondial de l'humanité, notamment pour son patrimoine romain et notamment ce qu'on appelle de nos jours des arènes, donc son amphithéâtre. Et l'idée pour moi, c'était de pouvoir amener un public qui n'a pas l'habitude d'aller vers la culture, qui a peur des musées. On a beaucoup de gens qui n'osent pas aller dans les musées parce qu'ils ne connaissent pas, ils disent que ce n'est pas intéressant, que c'est froid. Et essayer de les amener à la culture à travers l'organisation d'événements qui puissent être à la fois ludiques, festifs, mais qui aient un fond pédagogique. Donc tout l'enjeu était là pour nous, faire un festival, faire la fête, faire en sorte que les gens s'amusent, mais en leur donnant du fond. L'idée n'est pas révolutionnaire en soi, mais elle nous est venue, moi et le responsable du service des publics du musée, parce qu'on sait très bien à travers nos expériences au quotidien que pour peu qu'on se donne la peine d'être accessible et de ne pas avoir un vocabulaire trop compliqué, de ne pas être le scientifique qui fait sa démonstration, on peut attirer des gens et leur montrer que l'histoire, le patrimoine, c'est quelque chose d'intéressant et qu'ils peuvent découvrir leurs racines à travers cela. Donc on a eu du mal à le créer, ce festival, parce que j'en ai vu certains d'entre vous sourire pendant le teaser. Beaucoup de gens ont un a priori sur la reconstitution historique et sur l'histoire antique. C'est du péplum. Hein. Vous avez vu, on en fait d'ailleurs. Donc on a cet a priori qui est que, ah oui, vous jouez aux Romains, vous mettez des jupettes. Voilà. Et les gladiateurs, notamment, c'est ça, c'est des gens en jupettes qui vont se faire des spectacles, des moulinets avec des glaives. Donc on n'a pas une image sérieuse quand on aborde notamment les décideurs. On veut faire ce type d'événement. Soit ils nous regardent avec un petit sourire, soit ils disent « Ah ben oui, c'est bien, on va mettre de la paille partout par terre, on va acheter des draps et on va faire les Romains. » Donc ça, c'est un abord qui est compliqué, parce que nous, l'idée vraiment était de faire quelque chose qui soit très rigoureux, le plus possible, ou de faire des choses très décalées, mais qu'on ait vraiment la séparation entre les deux et que le public puisse immédiatement savoir dans quel domaine il était. On est dans la reconstitution historique, on est dans l'archéologie expérimentale ou on est dans le péplum. Mais le vrai enjeu, c'était de dire à nos décideurs, mais c'est quelque chose de porteur et ça va attirer du monde, puisque c'est un festival. Et que la deuxième idée sous-jacente à cette création, c'était de dire qu'il nous fallait être nous-mêmes acteurs de la culture, les acteurs du développement culturel et du tourisme culturel dans notre ville. Parce que on a beau avoir un magnifique amphithéâtre, des thermes, un théâtre romain, tout ce que vous voulez, on n'est pas les seuls à voir ça. Et les touristes qui veulent passer une semaine de vacances quelque part regardent sans doute comme vous et moi leur portefeuille et qu'il coûte moins cher d'aller passer une semaine en Tunisie ou au Maroc que deux jours et demi à Arles. Donc il faut apporter un plus produit. Alors, c'est une terminologie qui choque des fois quand c'est quelqu'un de la culture qui en parle, mais moi ça ne me gêne pas. Et le plus produit, c'est l'animation patrimoniale, justement. Montrer qu'on peut faire de l'animation, mais qui va apporter aux gens. Et qu'à travers cette démarche, on va pouvoir attirer un nouveau public, voire le fidéliser. C'est une démarche qui est très porteuse. Je vous montrerai les chiffres après, puisque notre festival, qui n'a pas beaucoup de moyens, est passé de 14 000 visiteurs la première année à 26 000 l'année dernière. Sachant qu'on n'a jamais eu de moyens de communication, le teaser que vous avez vu, par exemple, a été fait bénévolement par des gens qui travaillent dans des boîtes de vidéos et qui ont gentiment travaillé le soir et la nuit pour le réaliser. Donc sans outils de communication conséquents, on arrive à faire venir 26 000 personnes, ce qui est quand même un beau chiffre. Et on s'aperçoit à travers cette fréquentation qu'on a une fidélisation d'un public et qu'on a des gens qui deviennent prescripteurs. C'est-à-dire que le festival fait de l'autopromotion et ce sont les gens qui sont venus assister à l'événement qui ramènent du monde. Donc ça, pour nous, je vous avouerai que c'est très, très positif. Ça montre que notre démarche n'est pas si fantasque que cela et que le fait de mettre du fond dans l'animation, c'est porteur. Excusez-moi. Donc ce festival, je vous l'ai dit, il est porté par une association, mais ce n'était pas le cas au départ. Il a été créé par trois personnes, donc les deux personnes du musée, dont moi, et une présidente d'association locale, qui est l'association du film Péplum, qui existe sur Arles, qui fête ses 30 ans cet été. Donc un festival qui se déroule en plein air, dans le théâtre antique, et qui diffuse, vous l'aurez compris, les grands classiques du Péplum. Donc que ce soit Hercule huilé, ou que ce soit le Satyricon, par exemple. Donc on a une offre qui est diverse. Et cette association qui existait donc, quand on a créé le festival depuis 18 ans, avait eu des velléités d'animer un peu la ville en faisant des défilés romains, en faisant venir des gladiateurs. Mais bon, on était dans le péplum, justement. Et nous sommes rapprochés d'eux en disant, mais puisque vous avez envie de participer à la vie de la cité, de l'animer, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on travaille ensemble et que nous, on vous amène une expertise pour que, au lieu d'être déguisé en personnage de péplum, vous soyez habillé en romain. Et le courant est relativement bien passé avec eux, puisqu'on travaille toujours ensemble. Et ça nous a permis d'avoir une base citoyenne, parce que c'est important, ça recoupe un peu ce que vous disiez tout à l'heure, un festival de ce type-là ne peut pas exister s'il n'y a pas des gens et des bénévoles qui le portent et qui s'engagent. Il est clair que les premières années, quand on était vraiment trois dans l'organisation, c'était compliqué. Voilà, je me repose beaucoup plus maintenant quand le festival arrive, puisqu'on a une quarantaine de bénévoles très actifs et que pendant le festival, on peut avoir jusqu'à 80 personnes qui vont venir nous aider à porter des packs d'eau, apporter des chaises à droite, guider les intervenants, ce genre de choses. Et c'est aussi un des objectifs qui était le mien sous-jacent, c'était à travers l'Antiquité de créer une animation sociale au niveau local, c'est-à-dire que les habitants s'approprient ce patrimoine, parce qu'effectivement, là, c'est pas un petit village. À Villars, elle va jusqu'à 50 000 habitants, donc c'est pas non plus une mégapole, mais c'est quand même une ville qui est grande et qui a ce patrimoine monumental qui trône, mais qui du coup devient quelque chose qui fait partie du paysage. Voilà, on a les arènes. mais on ne sait pas vraiment ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça servait. C'est là. Ça a toujours été là, ça sera toujours là. Et il n'y a pas d'appropriation de la part des gens. Donc on voulait essayer de développer ça, tout en ayant, si possible, un rôle social, même s'il est à une échelle qui est minime, qui est de créer du lien entre ces gens, pour qu'à travers une activité associative, des gens se découvrent, que des amitiés naissent, etc. Et ça, c'est une de mes fiertés, je vous l'avoue. C'est que justement, ça a fonctionné. On a des gens qui maintenant, ont développé des réseaux amicaux et se voient en dehors de l'année et organisent des activités autour de l'association, puisque au-delà du festival qui dure donc pendant 6 jours durant le mois d'août, on a aussi des activités à l'année, notamment des stages de gladiature, puisqu'on travaille avec une société qui s'appelle la Société ACTA et qui fait la gladiature, mais en tant que sport de combat. C'est-à-dire, c'est pas du spectacle. Voilà. On fait pas dans le péplum, justement. C'est un vrai sport, et donc on a créé un club sportif avec des gens qui viennent, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, pour pratiquer ce sport. Bon, on a la chance d'avoir un gymnase qui est assez intéressant, puisque c'est l'amphithéâtre d'Arles. Donc c'est pas mal, on peut faire des petits entraînements seuls sur la piste alors que les touristes sont dans les gradins. Ça, c'est bien, c'est un bon argument de vente. Mais on fait aussi des stages sur le vêtement romain. Qu'est-ce qu'un vêtement romain? Comment est-ce qu'il se crée? Comment est-ce qu'il se porte? Comment est-ce qu'on le fabrique? Sur la société, sur les bijoux, sur tout ce genre de choses. Voilà, on essaie d'initier le public à ce qu'était le monde romain, avec l'idée de faire en sorte que les gens deviennent les acteurs de ce patrimoine et les promoteurs de ce dernier également. Du coup, je me perds un peu, je n'ai pas pris de notes, je suis désolé. Puis je ne sais même pas combien de temps j'ai pour parler, excusez-moi. Du coup, je file, mais...
On peut faire appel à l'assistance pour poser des questions, si vous souhaitez.
C'est comme vous voulez, sinon je peux pas être entendu. Enfin, ce qui est intéressant à voir avec ce festival, c'est que vraiment, on a choisi d'avoir un abord de diversité. Je vous le disais, on a le festival du film Péplum, où là on est dans le burlesque, mais on essaie toujours quand même d'amener un plus au public. Par exemple, cette année, le festival Péplum va mettre en place des apéros. Voilà, on n'est pas Saint-Émilion, mais bon, on a du Ricard, écoutez, on va faire avec, ou du vin romain, c'est très bon. Et avant les films, cette année on va passer par exemple Gladiator ou Astérix, Mission Cléopâtre. Avant les films, on va faire intervenir des spécialistes pour des apéros rencontres. Donc on aura, par exemple, avant Astérix Mission Cléopâtre, nous aurons 2 égyptologues, des archéologues, qui sont conservateurs en chef du patrimoine, qui vont venir parler de l'Égypte à la période romaine. Voilà, avec une idée de convivialité, justement, essayer d'attirer un public qui ne soit pas celui qui vient au musée d'ordinaire ou dans les grandes conférences organisées dans les cercles restreints du milieu scientifique. Voilà, on a toujours cet élément, cette démarche de dire, bon, on va essayer de vous en donner plus, de faire plus. Et on a la chance d'avoir réussi à développer un réseau d'intervenants enthousiastes qui aiment notre événement et qui sont prêts à venir la plupart du temps gracieusement. Parce que c'est aussi un des gros soucis, c'est vrai que je n'ai pas parlé d'argent, parlons-en. C'est très compliqué à mettre en œuvre de plus en plus. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres intervenants qui ont parlé aujourd'hui, mais voilà, les subventions publiques... baisse d'année en année, quand elles ne disparaissent pas parfois. Et nous, ça nous pose un gros souci parce que notre socle s'était mis à part pour le festival du film Péplum qui a des entrées payantes. Mais pour toutes les autres activités, on avait pris le parti de faire du quasiment tout gratuit. On fait des animations de rue, on fait des salons du jeu. Tout ça, c'est, les entrées sont libres. Donc on ne gagne pas d'argent. Notre idée étant au départ... un, d'offrir quelque chose au public. Voilà, il faut que la culture soit accessible à tous. Et donc, si on tombe dessus dans la rue et qu'on n'a pas payé, c'est bien. Mais avec l'idée sous-jacente de participer au développement économique local de manière induite. Le fait d'avoir le festival engendre la venue d'un public touristique qui va prendre des chambres d'hôtel, qui va aller au restaurant, qui va manger des glaces, qui va boire des cafés. Et ça, j'ai bien remarqué depuis maintenant 12 ans, ça devient très compliqué à expliquer à nos décideurs, à nos élus, qui sont de plus en plus des comptables et qui veulent avoir un retour sur investissement direct. Donc on a eu, moi j'ai déjà eu cette réflexion, qui est, mais je vous ai donné 2000 euros, combien ça m'a rapporté? C'est-à-dire qu'ils voudraient que leur institution touche en direct l'équivalent à la subvention, ce qui est assez aberrant quand on est dans ce domaine-là. Et les retombées induites sont très difficiles à quantifier, puisqu'éventuellement, ce qu'il faudrait qu'on puisse faire, c'est faire appel à des équipes de sondeurs, enfin des équipes spécialisées, mettre en place des questionnaires pour avoir des données chiffrées, quantifiables. Et c'est de plus en plus ce qu'il va nous falloir, je pense. Et je présume qu'il va falloir qu'on s'attelle à ça dans les années qui viennent, parce que sinon, nos activités seront en péril, parce que malgré le succès de l'événement, les subventions baissent. Et, donc on essaie de développer des moyens de financement propres. Donc, par exemple, on vend des prestations d'animation romaine. Il y a 3 semaines, on est allé animer un domaine viticole. Voilà, en leur livrant des journées romaines clés en main avec des gladiateurs, des légionnaires romains, tout ce genre de choses, des ateliers pédagogiques pour les enfants. Voilà, pour essayer de faire rentrer quelque argent dans les caisses et montrer à nos décideurs qu'on ne fait pas qu'avoir la bouche ouverte et être à la béquée. Mais voilà, on en est réduit à ça. Effectivement, la culture aussi doit impérativement rapporter, même pour les structures publiques. Donc on a des budgets qui ne sont pas à la hauteur du succès de l'événement, malheureusement. On a beau avoir des chiffres qui sont très très bons, c'est compliqué de convaincre. En même temps, on a nous un écueil, contrairement à d'autres peut-être, je ne sais pas quelle est la situation pour le village de Saint-Émilion, mais c'est que sur Arles, on a une offre culturelle qui est pléthorique, et c'est très bien. Mais entre les rencontres internationales de la photo, le Festival des Suds, et tant d'autres, c'est vraiment, on a une ville, on a une chance fabuleuse dans cette petite ville d'avoir une offre qui est même, c'est même trop quand on habite sur place, on ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi faire, tellement il y en a. Mais du coup, voilà, on n'est pas l'événement mobilisateur de l'année, ce qui peut être le cas dans d'autres endroits où quand on a la chance d'avoir une place, je dirais, quasi unique, bon, on arrive à récolter à peu près des fonds correctement. Là, nous, on est noyé là-dedans et c'est dur d'exister parce qu'en plus, on a toujours sous-jacente dans l'esprit des décideurs cette idée du péplum qui n'est pas sérieux. On s'amuse, nous. On ne fait pas un festival de fond, on s'amuse, on joue aux Romains. Et ça, c'est très compliqué. Même si on a de très bons chiffres et même si notre festival a engendré des développements intéressants et qui montrent aux élus que ça vaut la peine quand même de faire ce type de choses, par exemple, la ville d'Arles, depuis maintenant 6 ans, fait appel à la troupe avec laquelle on travaille depuis le début pour les gladiateurs et cette troupe anime leur monument pendant 3 mois de l'année, 2 fois par semaine, en proposant du théâtre romain, des Jeux olympiques antiques, des combats de gladiateurs. Et ils ont pu constater maintenant 6 ans que dès que ces animations sont présentes, elles sont gratuites. C'est-à-dire que les gens payent le billet d'entrée au monument et l'animation est offerte. Il n'y a pas un surcoût. Et les jours où ces animations sont présentes, les chiffres grimpent en flèche. Donc ils ont pu réaliser que oui, à l'animation patrimoniale, c'est intéressant aussi financièrement parlant. Et ça nous pose aussi un souci, c'est un paradoxe depuis l'année dernière, c'est que maintenant le festival est un peu montré du doigt par les décideurs locaux parce que comme on fait des animations gratuites dans les rues, eh bien on les empêche de gagner de l'argent dans les monuments puisque les gens vont venir voir les animations gratuites et pas rentrer dans les monuments. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'ils ont mis en place leurs animations grâce à notre présence. Et maintenant, on devient un peu indésirable parce qu'on fait de la concurrence. Voilà, donc c'est un peu schizophrénique, cette histoire. Mais bon, on espère que ça se résoudra dans les années qui viennent en essayant de trouver un modus operandi qui permette à tout le monde d'exister sans qu'on se tire dans les pattes. Est-ce que vous avez des questions ?
Voilà. Je vous en prie. Mais peut-être aux deux intervenants, parce qu'en fait, il y a deux fils rouges qui se rejoignent. C'est la tension entre le grand public et la rigueur philosophique, rigueur historique dans notre cas. Et le grand public que vous essayez de toucher autrement. Et puis il y a la question aussi de la création entrepreneuriale, de l'entrepreneuriat créatif et culturel, on en reparlera d'ailleurs, c'est un sujet qui nous concerne. Ça crée aussi peut-être, enfin vous parliez d'ACTA par exemple à Arles, mais il y a peut-être des exemples aussi évidemment à Saint-Émilion, mais ACTA c'est une entreprise privée, c'est-à-dire que
tout à fait, oui.
C'est une entreprise qui vit toute l'année et qui intervient à la demande en France d'ailleurs. Nous on voulait le faire venir pour la foire exposition de Poitiers, mais ça sera peut-être dans un autre cadre, mais en tous les cas il y a de la création et il y a de la créativité derrière.
Il y a la créativité et puis une activité effectivement économique. La société ACTA qui au départ était une association en est un bon exemple, donc ils ne nous ont pas attendu pour exister, on est un de leurs partenaires historiques et on a une relation qui est très, très forte et très privilégiée. Mais effectivement, ils vendent leurs prestations à des collèges, à des lycées, à des villes, partout en France. Et c'est quand même une société originale puisqu'elle compte 12 combattants, 12 gladiateurs professionnels. et ça fonctionne. Voilà. Mais parce que justement, c'est vraiment leurs fondamentaux, leur base, c'est la rigueur historique et scientifique. Et c'est ce qui fonctionne. On le voit bien, nous, on est en concurrence sur Arles, avec la ville de Nîmes, qui est à 35 km, qui a aussi un amphithéâtre, qui a la Maison Carrée, et dont les monuments sont gérés par la société Culture Espace, qui est donc un grand groupe propriété de Suez. Et 3 ans après la création de notre festival, ils ont créé leur jeu romain aussi, ce qui pour nous était très positif. Ça veut dire qu'on a aiguillonné le privé. Et eux font plus du péplum, justement. Ils font plus de masse. Et les retours qu'on peut avoir, donc eux remplissent quand ils font leurs événements, ils ont un budget communication qui, à lui tout seul, est 4 fois supérieur à notre budget global, enfin pour les chiffres que j'ai eus il y a 4 ans. Donc effectivement, on ne peut pas lutter. Mais par contre, le retour public, des échos que j'ai pu avoir, n'est pas très bon. C'est-à-dire les gens y vont une fois, puis après ils disent oui, bon, voilà, c'était du grand spectacle. Alors certains adorent, hein. Mais il y a beaucoup de gens qui n'y retourneront pas. Mais comme ils ont une puissance de feu énorme, ils arrivent à renouveler leur public. C'est vrai que nous, on est sur une autre démarche. On a beaucoup moins d'argent, on vise. Mais on essaie aussi de faire, pour revenir sur la question, de faire vivre des acteurs culturels locaux, que ce soit les troupes de théâtre, que ce soit les associations de jeux. Donc, on fait la création théâtrale également. Donc, on essaie de participer à cette vie. Et ce qui est intéressant, c'est que les créations qui ont été faites dans le cadre du festival sont après revendues, du coup, par les troupes, et notamment à Nîmes d'ailleurs, où donc les gens qui ont créé des spectacles pour nous vont les jouer à Nîmes après, donc c'est très intéressant. Donc, oui, il y a quelque chose qui fonctionne là-derrière.
À Saint-Émilion, est-ce que sur ces deux questions?
Alors, on n'est pas du tout sur les mêmes marges de marge. Par contre, il y a une chose sur laquelle j'en ai pas parlé tout à l'heure, et c'est quelque chose, on en reparlera parce que je crois que on l'a abordé tout à l'heure aussi en discutant avant, c'est sur la gratuité des événements. Nous aussi, effectivement, on propose les rencontres de façon totalement gratuite. On ne se prive pas de pouvoir éventuellement, selon pour des opérations très très spécifiques, de demander une participation financière, mais qui ne serait qu'une petite participation. Mais je crois que pour nous, c'était très important. C'est quelque chose qui est très très régulièrement par les partenaires et par plein de personnes, mais par effectivement les décideurs publics, remis en question, questionné en tout cas, si ce n'est remis en question. Mais on a la volonté de tenir bon, en tout cas sur ça. Et je crois que plus que jamais, en tout cas cette année, par la simple intervention d'une personne du public que l'on a eue cette année et qui nous a dit que c'était chouette que ça puisse être gratuit, parce que la philosophie, enfin, donc effectivement, c'est peut-être pour ça, le contexte n'est peut-être pas forcément le même pour tout le monde, mais qui nous disait donc que la philosophie ne lui parle absolument pas. Elle est venue entraînée par son mari et finalement elle est revenue l'année d'après. Mais ce qui lui plaît surtout sur le principe que ça puisse être gratuit, c'est que si ça ne lui plaît pas, on a plusieurs interventions qui ont lieu en même temps, hein, c'est vraiment le principe festival, donc il y a plein de choses en même temps. Si ça ne lui plaît pas, elle a tout à fait la possibilité de sortir de la salle et d'aller ailleurs, et se dire je suis libre de ce côté-là, je n'ai pas payé ma place, je ne me sens pas prisonnière de quelque chose. Et alors, la plupart du temps, me dit-elle, je ne le fais pas. C'est arrivé très rarement qu'elle sorte. En général, elle est happée par le truc et elle reste dans la salle. Mais sur le principe, c'est ça. Et rien que ça me fait dire, je pense qu'on est quand même encore parti pour quelques années de gratuité. Effectivement, je pense que c'est très important. Après, il y a une dernière petite chose, excusez-moi, je réagis tout de suite avant de l'oublier. C'est sur le principe de. On a les mêmes problématiques, hein, sur les principes de retombées qui peut y avoir, effectivement. Je pense que ça, chacun son métier. Et je pense que c'est pas à nous de mettre ce genre de choses-là en place. Et je pense que c'est quelque chose que peut-être on peut demander à nos élus, les différents, vraiment, institutions. De pouvoir peut-être eux mettre en place, ou en tout cas qu'on le fasse de façon coordonnée pour avoir les meilleurs résultats possibles. De même que par exemple, nous on est à Saint-Émilion, donc un tout petit village qui est très mal desservi, sur lequel la moindre parcelle de terrain est occupée par des pieds de vigne et non pas par des parkings. Donc l'accès est extrêmement difficile et les gens nous le répètent tous les ans. Oui, mais nous ne sommes pas transporteurs, on n'est pas on n'est pas voyagistes et on ne peut pas fretter des bus pour pouvoir vous faire venir. Si on le pouvait, on le ferait.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? parmi... Oui. Alors, on se présente à chaque fois puisqu'on enregistre. Hein.
Okay. Donc, je m'appelle Alexis Dombrovski, je suis musicien et je m'interroge sur deux choses. Vous avez tous les deux parlé du bénévolat. Je voudrais savoir si dans votre budgétisation, vous arrivez à estimer qu'est-ce que vous fait économiser le bénévolat. Voilà.
Oui, oui, bien sûr. C'est, enfin, je présume pour vous, c'est pareil. Quand on, de toute façon, quand on fait des dossiers pour faire des demandes de subventions, il faut valoriser le bénévolat. C'est très important. Il faut dire, voilà, le bénévolat équivaut à tant de dizaines ou de centaines de milliers d'euros. Parce que vous pouvez derrière présenter ça aux élus en disant, voilà, je vous demande 3 000 euros, mais regardez. En équivalent, voilà ce que j'ai. Donc oui, on le fait systématiquement.
D'accord. La deuxième question, c'est sur la gratuité. Est-ce que... qu'est-ce qui motive vraiment profondément cette notion de gratuité? Parce que par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est un peu la culture YouTube. Moi, j'ai participé à des festivals où effectivement l'entrée est gratuite. Et quand les gens payent, même quand ils s'ennuient, ils sont un peu obligés de rester pour voir jusqu'à la fin. Quoi. J'aimerais savoir ce que vous avez à répondre à ça.
Alors, je me permets, je commence. Je vais faire une réponse en deux temps. Vous avez raison, mais en réalité, vous avez tort. Ou vous avez tort et vous avez raison. Non, mais c'est, j'ai la même démarche que vous. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà organisé beaucoup d'activités pour mon musée, notamment des sorties archéologiques, ce genre de choses. Et je me suis toujours battu pour que ce soit payant. Alors que pour mon festival, je me bats pour que ce soit gratuit. Mais quand vous avez certaines activités qui impliquent une démarche du public, pour moi, je parle pour Arles, qui est une cité un peu grande et où les gens vont... découvrir le festival par hasard. Quand vous avez une activité que vous avez montée qui implique que les gens soient présents parce que vous avez un bus, parce que vous avez ce genre de choses, pour moi, il faut les faire payer, même si c'est symbolique. Parce qu'il y a un engagement, effectivement. Et les gens vont venir, ils vont respecter leur engagement. Si c'est gratuit, ils vont s'inscrire et puis ils ne viendront pas. Enfin, l'expérience, le monde, c'est très souvent comme ça. Par contre, quand vous êtes dans le cadre, comme nous, d'un festival qui a pour objectif de surprendre les gens. Certains vont venir spécialement pour le festival, mais le but, c'est aussi que les gens le découvrent, parce qu'ils vont venir voir les rencontres internationales, la photo, parce qu'ils vont juste venir voir le pays de Van Gogh, ou alors ils étaient au Sainte-Marie de la Mer pour se baigner dans la Méditerranée, ils viennent juste pour manger une glace. Il faut les happer. Et pour les happer, avec ces thématiques qui sont un peu difficiles d'abord, le monde romain, mais si c'est gratuit, ça devient intéressant parce qu'ils vont pouvoir se dire, tiens, qu'est-ce que c'est? Je vais aller voir. Et nous, l'objectif, c'est de les attraper et de les garder, un peu ce que vous disiez pour la dame, par la qualité de l'intervention. Et qu'ils disent, oui, je peux partir. Mais ils ne partent pas. Ils restent. Et du coup, après, ils vont regarder un programme, ils vont se dire, tiens, je vais découvrir autre chose, je vais aller voir. Et donc, cette gratuité de départ fait qu'on va pouvoir toucher un public beaucoup plus large. Pas simplement le public qui nous est destiné, j'allais dire qui est déjà sensible. L'objectif, c'est vraiment d'attirer des gens, et je pense que là, on se recoupe, des gens qui ne connaissent pas du tout ça et qui, à la limite, se disent « Non, c'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas, la philosophie, c'est compliqué, l'histoire romaine, j'y comprends rien. » Donc le but, c'est ça, c'est de gagner une nouvelle audience et de les amener à nous à travers cette gratuité.
Oui, je partage tout à fait cette analyse. Et alors, je précise juste que là, pour le coup, c'est vraiment extrêmement spécifique à Philosophia. C'est qu'on fait intervenir des auteurs. Alors, par contre, nous avons, nous, une politique de rémunération des auteurs. Qui aujourd'hui, pour les gens qui souhaitent, par exemple, nous, ça l'a toujours été, hein, on rémunère toujours depuis le début les auteurs, mais aujourd'hui, c'est une politique de rémunération qui est cadrée également par le Centre national du livre. C'est-à-dire, si vous souhaitez avoir une subvention du Centre national du livre, donc de l'État, il faut obligatoirement rentrer dans une grille de rémunération des auteurs. Nous, c'est quelque chose qui nous paraît logique. On leur demande un travail et on leur demande réellement, ce que je disais tout à l'heure, d'avoir une certaine accessibilité auprès du public. Donc c'est un réel travail qu'on leur demande, au-delà du fait de passer un week-end sympa à Saint-Émilion. Et par contre, le fait de ne pas solliciter le public pour des entrées payantes, on parie aussi, et je pense que le libraire ne serait pas contre ce que je dis, sur toutes les ventes de livres qu'il peut y avoir à côté. Donc on est dans un contexte un petit peu différent, dans la mesure où effectivement les auteurs ont une production, si vous voulez, à côté. Quand je dis qu'on ne se prive pas, par contre, d'avoir certains événements sur lesquels on puisse effectivement faire payer les entrées, on a organisé un banquet philosophique, par exemple, effectivement, on ne peut pas payer à manger à tout le monde, même si le repas c'est un petit buffet et c'est très simple. Donc à ce moment-là, on demande une participation financière. Ça a été le cas cette année également pour deux spectacles de théâtre qui n'étaient pas suivis du tout de discussions philosophiques, et tant bien même elle l'aurait été de toute façon, le spectacle en lui-même était payant. C'est une participation très symbolique que l'on a demandé, mais c'est une démarche différente et que l'on a absolument voulu aussi impliquer, c'est-à-dire que autant l'auteur a son travail rémunéré quelque part par le fait qu'il ait aussi ses droits d'auteur, autant l'artiste le comédien qui vient faire sa représentation de théâtre, lui, il est payé si on le paie. Là, il n'a pas de droits d'auteur qui vont tomber par la suite. Donc effectivement, ça c'est une logique que l'on peut expliquer et qui, pour l'avoir fait cette année, donc pour la première fois, le banquet c'était l'année dernière, mais cette année, cette démarche-là, qui passe très bien auprès du public, qui comprend tout à fait ce genre de choses-là. Après, sur le reste de la gratuité, effectivement, je vois tout à fait l'analyse, monsieur.
Bien, merci.
Oui. Pour compléter, comme vous êtes également artiste, c'est vrai que nous, c'est la même chose, les artistes qu'on fait intervenir ou les troupes sont rétribués. Alors la société ACTA, c'est une société, elle est payée comme une société. Après, ce sont essentiellement pour la reconstitution historique des associations. Donc les prix, fort heureusement pour nous, sont moindres. Mais on a toujours une rétribution des intervenants. Nos bénévoles, bon, ils sont payés par le plaisir qu'ils ont à suer sang et eau en portant des packs d'eau. Mais bon, et puis on ignore ce genre de choses. Mais on veille à essayer, dans la mesure de nos moyens, faire vivre ces intervenants. C'est quand même aussi important pour nous de faire en sorte que tout le monde soit gagnant, que ce soit le public, même si la prestation est gratuite pour eux, ou que ce soit les intervenants, parce que c'est du travail tout ça. On est bien d'accord.
Merci. Ce que je vous propose, à moins qu'il y ait d'autres questions, hein, bien sûr, mais sinon vous restez parmi nous dans la salle et je demanderai à deux autres intervenants de nous rejoindre et peut-être on va commencer un peu inversé. On va demander à Marie-Hélène Gautron de présenter le collectif Vienfest, puis Alexis de se rejoindre ici puisqu'on parle de musique. Et donc c'est le point de vue d'un artiste musicien sur justement la musique.
Bonjour, je suis Marie-Hélène Gautreau, présidente de l'association Mélusique.
Voilà, parlez plus près. Ouais.
Et qui fait partie du tout jeune collectif Vienfest. Je vais vous présenter rapidement le festival Mélusique. Mélusique, c'est une association de Lusignan, sud de la Vienne, petite commune de 2700 habitants. Il se trouve que la commune met à disposition depuis 55 ans des locaux qui sont des salles de répétition pour les groupes de musique amateurs ou professionnels, et que très logiquement l'association a décidé il y a une vingtaine d'années de créer un événement pour que les groupes qui répètent dans nos locaux puissent se produire devant le public. Donc le premier festival a donc vu le jour il y a 20 ans. C'était une soirée très simple dans la salle des fêtes de la commune. Au bout de 10 ans, les bénévoles de l'association ont décidé de passer le pas et de dire « Allez, on va en extérieur et on fait un vrai festival sur deux soirées ». Et nous avons donc fêté en début juin 2017 les 20 ans du festival Mélusique. Ça va recouper beaucoup de ce qu'ont dit les deux précédents intervenants, c'est-à-dire que notre festival est gratuit, entièrement gratuit, avec quand même la possibilité pour nous d'avoir des ressources sur ce festival, puisque sur le site du festival, il y a une buvette et un resto public. Voilà, donc c'est quand même deux lieux qui nous permettent de récupérer quand même des entrées d'argent. Mais la gratuité, pour nous, c'est évident. Il n'est pas question qu'on revienne dessus. On se battra toujours pour conserver la gratuité, pour que tous les publics puissent accéder aux musiques actuelles, qui ne sont pas non plus d'accès forcément facile pour tout le monde. Donc, c'est l'occasion de venir découvrir. Ça aussi, c'est un des objectifs importants de Mélusique et des autres festivals qui composent notre collectif, c'est d'être des lieux de tremplin pour tous les groupes locaux. Donc du coup, en vous écoutant en début d'après-midi, même au cours du repas, je me posais la question, c'est est-ce que nos festivals favorisent la créativité, ou c'est parce qu'il y a beaucoup de créativité sur nos territoires que nous avons été amenés à créer des festivals? Voilà, c'est les deux se rejoignent, hein, je pense. Et vous parliez aussi du bénévolat et de la fédération des associations. C'est vrai que tous nos festivals n'existeraient pas si nous n'avions pas des bénévoles. Nous, sur les trois soirées cette année, puisque c'était l'année des 20 ans, nous avons entre 100 et 120 bénévoles qui interviennent sur le festival et une quinzaine qui travaillent toute l'année pour préparer le festival. Et ensuite, les partenariats financiers. Alors, nous recevons, au Mélusique, des subventions de la commune, de Grand Poitiers, du département, de la région, et nous faisons aussi appel au mécénat des entreprises locales qui nous répondent toujours très favorablement et qui participent pour une part non négligeable au financement du festival. Voilà, ça, c'est pour Mélusique. Ensuite, au mois de juin, alors le festival Viennefest, donc vous voyez quels sont les festivals qui sont des festivals de musique actuelle, hein, qui ont décidé de se rassembler en collectif. L'idée... Comment on fait pour passer à la diapo suivante? Voilà. L'idée est venue fin juin 2016, donc il y a un petit peu plus d'un an, au moment où nous avons appris tous par voie de presse que les subventions régionales étaient soit supprimées, soit drastiquement diminuées. Donc c'est vrai qu'on a eu une petite réaction un peu de colère. On dit on va se réunir, hein, on va montrer notre force. Et puis finalement, lorsque nous nous sommes retrouvés en octobre, on a dit non, on va essayer de réagir de façon positive, d'interpeller nos élus pour montrer quel est le poids culturel, économique, humain que représentent tous ces petits festivals en milieu rural. Donc voilà, et puis ça a été aussi un lieu d'échange, c'est important parce qu'on échange sur nos pratiques, on échange sur nos moyens, on mutualise les moyens, on crée des amitiés aussi qui sont chouettes. Un soutien à Equinox, alors pour ceux qui ne sont pas de la Vienne, Equinox est une association qui intervient sur nos festivals, qui a des activités de prévention des risques en milieu festif, et qui aussi rencontrait des grosses difficultés de financement. Donc on s'est dit on va les soutenir, parce qu'ils sont c'est une association qui est très importante comme partenaire de nos festivals. Et puis nous avons décidé aussi de créer un support commun de communication pour 2017. Donc en février, nous avons envoyé un courrier à nos élus départementaux et régionaux. Nous avons rencontré au mois de mai un élu et le directeur de la culture du département de la Vienne, et ensuite la directrice de la culture de la région. Donc, ça a été des échanges intéressants. Les deux nous ont dit c'est fantastique, vous avez fait une démarche fabuleuse, ce collectif c'est très bien. Donc bon, c'était plutôt flatteur pour nous. Donc, ça nous a permis de leur réexpliquer de vive voix l'importance pour nous que représentent tous ces événements culturels en milieu rural. Il ne faut pas les oublier, il faut que ça vive, il faut que ça continue à vivre. Voilà. Et puis, mai, juin, juillet, la diffusion de notre dépliant dont vous voyez la première page. Et nous, donc, dans le courrier que nous avions envoyé aux élus, on a fait un état des lieux 2016 qu'on refera à la fin de la saison des festivals, en expliquant, on leur expliquait pourquoi on trouvait très important que les élus soient interpellés sur nos festivals. Avec le nombre de bénévoles qui interviennent sur nos festivals, le nombre de salariés, les fournisseurs locaux, parce que ça aussi, c'est une politique importante de chacune de nos associations organisatrices de festivals, c'est faire travailler l'économie locale. Donc on s'efforce, dans la mesure du possible, de ne nous fournir que chez des fournisseurs locaux. Le nombre d'artistes, dont les artistes régionaux, les budgets représentés par tous nos festivals, qui sont de différentes tailles, et puis la part que représentent les différentes subventions. C'est pas très élevé quand même dans la part de nos budgets. Mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi mettre la valorisation du travail des bénévoles, pour faire une case supplémentaire. Et puis, on a évalué à peu près le nombre de spectateurs que nous pouvons accueillir sur nos différents festivals. Il y en aura un peu plus pour 2017, parce qu'on a eu la chance d'avoir un début de juin très ensoleillé. Donc, nous avons eu plus de spectateurs que les années précédentes. Alors ce collectif, il est tout jeune, hein, donc il a été créé en octobre. On en a rediscuté puisque du coup on se rend visite, hein, de festival en festival, et on va continuer le travail commun en entraide. Par exemple, là on a eu deux ou trois situations un petit peu difficiles pour les uns ou les autres qu'on a réglées. Il suffit d'un coup de fil, on se connaît maintenant, c'est facile. Et peut-être on va travailler en organisant des réunions thématiques sur la pratique des uns et des autres. Il y en a qui ont des expertises dans certains domaines, la sécurité, l'organisation. Donc, voilà. Mais on va continuer ce travail collectif. C'est vraiment intéressant. Ça, on crée des amitiés, du soutien. Et ça, c'est vraiment chouette.
Très bien. Merci pour cette présentation d'un collectif. Alors, il y a peut-être des questions dans la salle, mais sinon, on a vu tout à l'heure la philosophie et les humanités classiques, on peut dire d'une certaine façon, le monde romain. Ce qui est intéressant, peut-être, justement, c'est de réfléchir sur tradition et innovation. Vous nous parlez de musiques actuelles, et tout à l'heure, au déjeuner, je faisais allusion au festival du grec et du latin, où des jeunes avaient traduit des chansons des Beatles en latin et faisaient du hip-hop en grec ancien. Donc, c'est ça qui est peut-être intéressant aussi dans nos rencontres, c'est qu'il y a des mariages qui s'opèrent. Alors, je voulais donner peut-être la parole à Alexis, mais à moins qu'il y ait des questions pour Madame Gautron, mais on pourra en reprendre tout à l'heure, sur la musique, parce que lui vient d'un groupe de recherche musicale, je crois, Albi, enfin, tu connais bien ça, et notamment, il y a un projet de travail avec une entreprise, on verra tout à l'heure dans le programme, un peu expérimental. Ouais, donc, je ne sais pas si tu veux réagir sur cet aspect musical.
Si, je vais essayer. Je me présente, je suis Alexis Dombrovski, je suis musicien professionnel depuis 1991. J'ai une formation de musicien de jazz, mais aussi j'ai fait beaucoup de musique tzigane. Et effectivement, à la fin des années 90, je suis rentré de plein pied dans l'improvisation. Après mes études au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, je suis rentré dans ce qu'on appelle la musique organique et l'improvisation bruitiste, qui est de nature à vraiment faire fuir les gens. Il faut dire les choses. Je viens aussi du free jazz. Je suis un peu né là-dedans. Je suis moi-même fils de musicien. Donc, j'ai vécu par procuration les années langues, réellement. C'est-à-dire que quand je suis devenu professionnel, j'étais assez confiant quand je voyais le niveau de revenus de mon père et de ses collègues. Et en fait, en pouvoir d'achat, notre pouvoir d'achat, il a été divisé par 3, à peu près, en plus d'une vingtaine d'années. D'où toutes ces questions sur la gratuité et la compression des coûts de production. C'est des questions qui me tiennent à cœur, parce que ça m'étonnera toujours qu'on trouve normal d'acheter des frites et de ne pas payer pour voir des artistes, de compter que sur les subsides locaux pour ça. Ça, c'est quelque chose qui m'intrigue, réellement, quoi. On paye pour tout, sauf pour les artistes. Et ça nous pose un problème de légitimité. Ça représente énormément de travail d'être un artiste. Ça représente, là par exemple, je suis là aujourd'hui, je suis très content de vous voir, je suis très content de découvrir des gens, mais je ne fais pas mes gammes. J'ai 46 ans, ça fait 30 ans que je fais 2, 3, 4 heures de gamme par jour. Et les gens qu'on rencontre n'ont pas cette notion du travail. Parce qu'effectivement, ça a de moins en moins de coûts. Tout à l'heure, je parlais de civilisation YouTube, consumériste. C'est parce qu'effectivement, on demande de moins en moins d'efforts aux gens. Les gens peuvent vaquer de l'une à l'autre. C'est plus des spectacles, c'est plus des conférences, c'est des activités, quoi. Et je pense qu'il faut se méfier de ça, personnellement, et tirer les gens vers la complexité. Et après, c'est une opinion personnelle. Je ne m'attendais pas forcément spécialement là... à parler de tout ça, évidemment. Moi, je comprends aussi les décideurs locaux qui se posent la question de la rentabilité. Ils se la posent par rapport à leur électorat, qui sont aussi les commerçants, par exemple, de Arles et tout ça. Toutes ces questions-là se posent. Par exemple, vous parliez des spectacles romains, en disant qu'il y avait une sorte de prévention par rapport à ça et tout, mais on a le puits du fou. Je ne sais pas ce que vaut le puits du fou en matière de crédibilité historique, mais c'est très, très rentable. Donc, il y a le parc Astérix aussi, c'est autour des Romains, mais c'est extrêmement rentable aussi. Donc, question des décideurs locaux, c'est vrai qu'ils risquent de disparaître, enfin, de toute façon, il y a de moins en moins de fonds. Moi, je fais partie des victimes de ça, puisque j'étais comme un chercheur subventionné, mais intermittent du spectacle. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 7 ou 8 ans en collaboration avec la région. J'ai fait beaucoup de médiations qui sont gratuites, mais l'éducation nationale est gratuite. Mais qui était d'ailleurs, enfin, la région me demandait de faire des médiations, mais que ce ne soit pas budgétisé. C'était tout à fait étrange, puisque c'est quand même interdit, en théorie. Et on faisait des créations. On commence à se décider de qui était ayant droit, je dirais. C'était beaucoup du réseau, de la politique, des discours, la possibilité aussi d'intégrer le milieu rural, c'est-à-dire de discuter avec les gens, éventuellement le contenu des médiations. Et c'est une source qui s'est tarie. Donc, comme je n'étais pas payé par l'éducation nationale pour faire de la recherche, mais uniquement par le biais d'être capable d'aller chercher de l'argent, entre guillemets, par le biais des subventions publiques, j'ai tout perdu. Je suis au RSA maintenant. Mais ça va, je ne me plains pas. Enfin, je veux dire, c'est pas l'objectif principal de ma vie, ça n'a jamais été d'être riche. Sinon, j'aurais probablement pas fait ce métier. Maintenant, la raison de ma présence ici, c'est aussi pour rencontrer des entrepreneurs, rencontrer d'autres gens, parce qu'il y a une mutation qui est en cours. Il y a une mutation qui est très, très clairement en cours. Les entreprises ont intérêt à faire du mécénat. Elles ont quand même 60% d'abattement fiscal là-dessus. Il y a le mécénat, il y a le sponsoring, c'est absolument pas la même chose. Et par l'intermédiaire de Jackie Deniol, qui a vu mon nom sur une affiche parce que j'essayais de donner des cours de saxophone, voilà, qui m'a téléphoné, j'essaie de découvrir d'autres personnes et d'aller vers le public, c'est-à-dire de décloisonner, parce qu'il y a un vrai problème de classe sociale, c'est-à-dire que les gens, par exemple, ne se sentent pas la légitimité d'aller... Finalement, dans des lieux type théâtre national et tout ça, énormément de gens sont exclus. S'ils ne sont pas lecteurs de Télérama, ils ne voient pas l'intérêt d'aller là-bas. C'est un fait. Donc je veux aller jouer chez eux, mais je veux aussi avoir des partenariats avec des entreprises qui payent des places à leurs employés. Parce qu'en fait, ce qui se passe en réalité, par exemple, Leclerc a un salon du livre, je ne sais pas où, c'est extraordinaire, il fait venir... je ne sais plus quel acteur, pour faire une lecture de M. Malocène, il paye 10 000 euros. Ce qui est rien. C'est vraiment pas grand-chose pour une représentation. Et en échange, la scène qui est toute contente d'avoir 1 000 euros de je ne sais plus quelle petite ville et tout ça, lui donne 200 places. Elle ne lui vend pas 200 places. Hein. Elle lui donne 200 places. Quoi. Donc, si on veut qu'il y ait de la qualité aussi, il faut savoir être, entre guillemets, un peu... dur à la négociation aussi avec les gens du secteur privé. Parce que avec la nouvelle économie, avec les façons dont les choses se passent, il est visible qu'ils vont avoir aussi besoin de l'intelligence de leurs employés. Parce qu'on arrive sur vraiment des nouvelles générations, on parlait de cela tout à l'heure à table, où au fur et à mesure qu'on vieillit, on trouve que les jeunes sont un petit peu incultes, qu'ils manquent de vocabulaire et tout. Moi, j'en fréquente pas mal. Ils s'expriment juste différemment, mais ils arrivent à faire cinq choses en même temps, quoi. Donc ça, il faut que les entrepreneurs ils tiennent compte de ça aussi dans leur façon de... dans leur rapport à leurs employés, quoi. Voilà, je suis parti de...
Non, mais c'est
ça, de ce mouvement. Voilà.
C'était le regard croisé, c'est un regard croisé intéressant, mais je crois que la voisine voulait intervenir.
Je voudrais répondre sur la gratuité et sur les subventions publiques. Bon, il se trouve que cette année, à notre festival, il faisait très beau, on a eu un public très large, très important, et que le maire de la commune qui avait doublé la subvention habituelle pour que nous puissions fêter nos 20 ans de façon significative, m'a dit à un moment, il dit, écoute, regarde, quand je vois le site qui est rempli, quand je vois que le public local est là, il dit, maintenant, je sais pourquoi je vous ai donné une subvention, ça me fait plaisir, je vois que les gens sont là. Et donner des subventions, si ça peut être valorisant aussi pour des politiques qui font des choix culturels.
Je ne résiste pas à l'idée de vous interpeller sur le Puy du Fou, puisque ça a été nommé.
Désolé. Non, vous faites bien, effectivement. Avant de parler du Puy du Fou, juste par rapport à la sollicitation des entreprises, à l'abord des élus, alors c'est un avis qui engage que moi, par rapport au mécénat ou même à l'exemption fiscale, chez nous, c'est compliqué parce que, je vous disais, on a pléthore d'activités culturelles et donc les quelques entreprises locales sont assaillies par tout le monde pour avoir l'argent. Donc autant vous dire, quand vous allez voir un entrepreneur de BTP, vous êtes le 50e qui arrive. C'est vraiment très rude. Donc nous, on a même les partenariats matériels, ce genre de choses, on n'arrive pas à en avoir. Bon, déjà parce qu'on est sans doute mauvais là-dedans. Ce n'est pas notre cœur de métier. Quand on est cultureux, c'est compliqué d'aller vendre aussi. On ne sait pas tous le faire. On a un commercial dans l'équipe depuis un mois maintenant. Donc on espère un nouveau bénévole. On espère qu'il va nous aider. Pour les subventions, moi, j'entends le discours qui est que les élus veulent qu'on rentabilise, entre guillemets. Moi, c'est un discours que je n'arrive pas à entendre. Je le comprends, mais pour moi, une subvention publique, elle n'est pas là pour être rentable. Un élu, il est là pour servir sa population avec des offres diverses et variées. Ça va être un rond-point, ça va être de l'approvisionnement en eau, ça va être l'accès à la culture. Et ça, de mon point de vue, alors je sais que du coup, je me sépare de la grande vague dans laquelle on se trouve actuellement, je trouve ça choquant. Voilà, ça n'a pas à être rentable en soi. Après qu'on ait les arguments derrière pour dire mais on fait du développement culturel et donc économique parce que nos commerçants vendent des repas, ça c'est très très bien. Moi je n'ai rien contre. Faire de l'argent avec la culture, ça ne me pose aucun souci. Hein. Mais il ne me semble pas que nos politiques soient là pour ça au départ.
Alors je suis d'accord, c'est une histoire de déontologie. Je parlais juste de réalité. Hein.
Oui, ben voilà, mais effectivement, on va vers ça, on y va, et je ne sais pas trop comment on peut, nous, simples citoyens, lutter contre ça. C'est très compliqué. Pour venir au Puy du Fou, j'ai pas oublié. Le Puy du Fou, c'est un exemple qui est fabuleux. Moi, quand je vois ça, ça me fait rêver. Pas le fond. Parce que sur le fond, c'est mauvais. Je suis désolé de le dire, hein, s'il y a des fans du Puy du Fou, des organisateurs, pardon. Mais quand je vois, pour ce que je maîtrise, leur spectacle romain, c'est du péplum. Voilà, prenez tout, mettez tout à la poubelle immédiatement. En plus, outre le fait que je trouve ça ridicule sur le fond, mais c'est très mauvais ce qu'ils font. Mais ça fonctionne. Moi, ce qui me gêne dans cette démarche, ce n'est pas ce qu'ils font. Encore une fois, c'est un exemple. Et puis du coup, j'aimerais bien être en capacité de créer la même chose chez moi. Ça me ferait très plaisir, outre tout le développement économique qui va derrière. C'est juste que moi, je sais par expérience qu'on peut être aussi percutant, aussi rentable, attirer autant de monde, mais en faisant les choses correctement, en les faisant bien. Ce n'est pas plus compliqué. C'est juste des a priori. Voilà. Et on va vers la facilité. Moi, ça me navre. Parce
oui.
que je ne comprends pas pourquoi on veut faire de... Je ne vais pas employer des mots. Pourquoi on fait des choses petitement, bassement, alors que ça fonctionnerait encore mieux en les faisant correctement et en tirant les gens. Parce que nous, quand on fait justement des spectacles, par exemple les combats des gladiateurs, carrément le phare, les gens qui veulent voir juste du spectacle, ils l'ont. Ils ont deux gars qui se tapent dessus. Ils donnent des coups de pied, ils donnent des coups de poing. Et tout ça. Ils ont un spectacle de gladiateurs. Ils peuvent voir ça, ils l'ont. Sauf que nous, en plus, ce qu'on va leur donner, ce sont des vrais gestes avec des explications, en leur expliquant d'où ça vient, comment ça fonctionne et où ça va. Donc on a le plus produit qui est, vous avez le divertissement, mais vous avez le fond.
Et ça, on ne perd pas les gens qui veulent juste du divertissement. On a des gens hein, qui... ça leur suffit, ça. Mais ceux qui veulent plus, l'ont.
Il y a une question que je me pose, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est un peu une provocation. Oui. Le Puy du Fou, c'est mauvais, mais l'entrée est payante.
Oui.
Et pourquoi pas faire de la qualité et que ce soit au moins symboliquement payant ?
Parce que ça veut dire qu'au départ, il faut que vous ayez les reins assez solides pour monter un gros projet. Moi, je ne suis pas Philippe de Villiers. J'ai pas derrière moi. Non, oui, c'est bien d'ailleurs, ça ne me gêne pas, je vous l'avouerai. Mais voilà, je n'ai pas derrière moi toute une infrastructure, tout un réseau qui va mettre 2,5 millions d'euros sur la table pour lancer. Il faudrait ça.
Donc,
si on a l'argent au départ, si on a le réseau, les influences, le réseau à la fois économique et politique, on peut lancer des grosses choses. Nous, l'idée, c'était ça. On s'était dit, en développant notre projet, en montrant que ça fonctionne et que les gens viennent, on va attirer les décideurs. Donc moi, quand j'ai mes tableaux, je vous disais, on est passé de 14 000 visiteurs à 26 000. Je pense que c'est l'argument. Mais il ne porte pas.
C'est-à-dire donc, moi, ça veut dire que ça.
Moi, je m'étais
coût
dit, avec ça,
payer.
On va vendre, on va pouvoir dire, regardez, c'est potentiellement rentable, investissez.
Donc, la gratuité, ça permet de faire des économies.
Alors.
Hein, c'est bien ça, c'est pas uniquement un moyen de démocratisation, c'est un moyen de faire des économies. Le fait de faire payer a un coût. C'est ce qu'il est en train de dire, qu'il faut avoir les reins solides pour avoir une billetterie. C'est tout ce que je voulais dire.
Bien. Est-ce qu'il y a d'autres pour échanger ? On continue hein, après. Non ? On en reste là ? Et donc, je vais demander maintenant aux gens d'Échalarte, hein, c'est ça ? C'est comme on dit. Monsieur Laborde et monsieur Debordes. Voilà, c'est un duo en ordre, si j'ose dire. Et je ne sais pas si madame Meunier est parmi nous. Je crois que oui. Donc, si vous voulez vous... ou vous intervenez de la salle après, c'est comme vous voulez, ou vous vous joignez pour intervenir ensuite sur le compte, comme vous voulez. Oui. Ben écoutez, vous irez après, ben, restez là pour l'instant, puis on fera appel à vous. Allez. Donc il faut nous situer où se trouve Échalarte, parce que voilà. Hein.
Merci à tous. Donc, l'idée, c'est de vous présenter le Festival Échalarte, qui est un festival d'art plastique en Charente, dans un petit village de Charente. Donc, avant tout, l'association Alambic, c'est une association de 1901, qui a donc une 1999, et nous avons 180 bénévoles pour un village de 500 habitants. Donc, des bénévoles qui regroupent différents villages aux alentours aussi. Et de tout âge, oui. Ça va de 3 ans à 84 ans. Ah oui, Échalarte, c'était la question, effectivement. Donc, on peut le voir, Échalarte se situe dans le vignoble Cognacé, entre Angoulême et Cognac, pour faire très large, et plus précisément, près de Rouillac. Donc, comment cette histoire-là a commencé ? Ça a donc commencé dans les années, donc il y a 11 ans, d'accord. Et l'idée, c'était, donc, on a un petit village, trois artistes plasticiens, et on avait une étudiante qui voulait faire un projet pour une licence. Et le sujet qui avait été retenu après moult discussions entre différentes personnes, c'était donc de lancer un festival d'art plastique avec notamment des ateliers dans le village. Voilà. Et donc depuis, ça, l'histoire a continué. Ça a été repris une fois que le projet de l'étudiante a été monté et achevé et abouti par un festival, première année. Ça a donc continué par une équipe de bénévoles qui depuis perpétue la tradition de ce festival dans le village. Donc, comme je disais, c'était ça. C'est donc 180 personnes bénévoles. Donc, il y a une dizaine de personnes qui travaillent tout au long de l'année, hein, toujours des bénévoles, et dont le thème, c'est surtout le partage et les rencontres autour des arts. Donc, il y a trois activités principales. C'est l'art plastique, à travers qui se décline différemment, des spectacles de musique et de la restauration, puisque c'est notre moyen d'existence et de financement, avec une logique très partagée par tous, du respect de notre environnement à travers une logistique et des moyens adaptés. Donc là, le principe, ça se situe le premier week-end d'août. Et la spécificité de ce festival, c'est-à-dire que ça se situe dans le village, et pendant 3 jours, les fermes, les cours et autres porches du village s'ouvrent. Et donc les artistes sont accueillis chez les habitants pour faire leurs expositions, leurs démonstrations d'art et ainsi de suite. Voilà. Et donc, vraiment, le mot fort, c'est partage et belles rencontres, puisque, comme on le verra, au terme de les, pendant les trois jours, les repas de midi sont fournis dans, par, le, par l'association, et ça donne lieu à de rencontres multidisciplinaires entre des peintres, des sculpteurs, des gens qui font de l'enluminure ou autre, et qui peuvent partager ainsi leur, leur passion pendant ces trois jours. Et notamment, ça aboutit à des rencontres artistiques de plusieurs artistes qui vont se rencontrer, qui vont monter un projet qui aura lieu dans l'année suivante. Donc, un peu, c'est la progression du village, hein, comme on peut le voir. Donc, on a commencé vers 39 participants et à peu près 1500 visiteurs en 2007. Et donc, maintenant, nous sommes rendus à... Bon, 2016, nous avons fait à peu près 6500 visiteurs. Et deux ateliers d'art pour tous, je vous en parlais juste après, et notamment une centaine de stagiaires. Donc c'est un peu, et 6 000 visiteurs. Ouais. Donc c'est un peu la progression qui a été soutenue toujours par ces bénévoles fidèles, depuis, puisque la plupart des bénévoles du début sont toujours là. Donc ça c'est une même présentation de chiffres, mais un peu orienté. Avec le temps, donc les stagiaires, on a une centaine de stagiaires, donc les ateliers, les personnes qui viennent faire des ateliers, passer trois jours dans le village pour faire des ateliers d'art plastique, une centaine de stagiaires, et ensuite donc on a une fréquence de visite à peu près de l'ordre de 4 à 5 000 personnes relativement longtemps, et l'année dernière, grâce à un temps extraordinaire, on est passé à peu près dans les 6 000 personnes. Donc ça, ce sont un peu notre thème qui soutiennent le festival. Donc c'est la promotion de l'art plastique en milieu rural, un thème fort autour du handicap à travers deux actions fortes, art pour tous et bénévole art. Le respect de l'environnement, qu'on va voir, qui est structuré, bien géré par toujours des bénévoles motivés et engagés, un lien social fort, et le village a la chance d'avoir un cœur de patrimoine relativement fort. Donc c'est ce patrimoine qui se met en valeur le temps d'un festival. Et donc, ce qu'on offre aux gens, c'est des ateliers, des expositions. Cette année, on a un concours de peinture en plus, on essaye de lancer, des animations musicales, et pour que la rentabilité du festival soit au rendez-vous, un système de restauration bien huilé, qui fonctionne très bien, qui permet de faire vivre le festival. Donc, pour cette année, donc, on propose des ateliers d'art plastique. Donc, comme vous pouvez le voir, la nature des stages est très très variée. Ça va de la peinture à la fonte de bronze. La fonte de bronze, c'est une pratique qui est faite par un artiste burkinabé qui vient chaque année. On fait de la sculpture, de l'enluminure cette année, des statuettes, de la gravure sur bois. Voilà. Donc on propose 10 thèmes de stage, et parallèlement, l'association offre deux stages qu'on appelle Art pour tous, donc pour des personnes en situation de handicap. Donc là, c'est la partie art pour tous. Avant, donc, on a des ateliers que l'on propose, je disais. Et aussi, pendant le festival, les personnes en situation de handicap sont partie prenante dans toute la démarche, la préparation du festival, pendant le festival, et après, participent à toutes les réunions, puisque pour animer tous les bénévoles, on a à peu près 6 réunions où les bénévoles sont conviés pour leur présenter un peu l'avancement du projet tout au long de l'année. Et là, à chaque réunion, on a entre 60 et 80 bénévoles, en moyenne. Donc ça, c'est la réalisation de l'année dernière des personnes en situation de handicap. Ils ont fait une mosaïque qui fait à peu près 1,80 m sur 80 cm. L'atelier était animé par une personne du village qui a donc réussi, pour ces personnes-là, à faire cette mosaïque de la Fémusine, puisque l'année dernière, notre thème, c'était... les contes et légendes, voilà, avec la Fémusine, voilà. Et donc, c'était approprié. Cette année, donc, le stage a eu lieu pour cette année, avec un thème totalement différent. Là, ils sont partis sur de la peinture et représenter des monuments du festival, du village, pardon. Et donc, toutes ces peintures sont des parties du village qu'ils ont reproduites et peint. Voilà, donc cette partie-là est faite. Et la deuxième partie qu'on est en train de travailler sur actuellement, c'est parce qu'il faut le préparer relativement intensément, c'est un stage art pour tous sur lequel on le dédie aux personnes, aux enfants autistes. Et donc là, on travaille avec des associations locales, Entre Parents, qui est une association qui regroupe des parents qui ont des enfants autistes, qui ne sont pas forcément encadrés, malheureusement accueillis dans des structures pendant la journée. Et donc on travaille avec cette association-là. On travaille aussi avec, pour l'encadrement, avec Pôle Ressources Handicap, une association en Charente, et on retravaille aussi avec l'ALEPA, qui est une association qui a été à Saint-Benoît, pour justement assurer l'encadrement de ces stages pendant les 3 jours. Et donc tous ces stages-là sont gratuits pour les enfants, on les offre aux enfants. Voilà. C'est le principe sur lequel l'ensemble des bénévoles sont entièrement d'accord de pratiquer ainsi. Donc c'est-à-dire que le maître de stage est rémunéré, il n'y a pas de souci, on paye les matériaux, les hébergements, tout ce qu'il faut pour que le stage se déroule le mieux possible pour tout le monde. Après, donc, en parallèle, nous avons une exposition d'art plastique. Donc, le thème de cette année, c'est donc art naïf et art imaginaire. Et cette année, on a donc 45 exposants. Donc, j'ai mis quelques-uns des exposants qui sont là. Avec notamment, on aura une galerie de couleurs art d'Haïti pour faire découvrir l'art naïf haïtien au public, qui est quand même un art naïf très, très, très coloré et très, très agréable à découvrir. Donc le principe de base du festival, donc c'est que les fermes s'ouvrent, les cours de fermes s'ouvrent, et donc les artistes exposent dans les cours, les fermes, sur les porches et visitent. Voilà, donc c'est le principe du jour. Sur 3 jours, c'est ainsi que ça se déroule. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des artistes qui en profitent pour peindre pendant leur exposition. Donc c'est assez libre de conception. Le concours, donc historiquement, on a un concours depuis plusieurs années. Donc actuellement, c'était un vote du public par rapport aux exposants. Donc ce système-là est maintenu, donc avec un vote du public. Et parallèlement, cette année, on lance un concours ouvert à tout public avec des nombreux prix, prix professionnels, prix amateurs et prix du jeune public. Et donc là, en photo, vous avez les artistes qui, l'année dernière, avaient obtenu les prix du public. Donc on reconnaît plusieurs artistes donc Jean Delettre de Parthenay. Pour les animations, donc c'est partie animation en soirée. Donc là c'est pour cette année. Donc il y a une compagnie qui vient de La Rochelle, Michel Cordebeuf, qui est un conteur poitevin connu, qui vient faire un spectacle. Et 13h du mat, qui est un groupe de musique plus moderne de Confolens en Charente. Et ces spectacles aussi sont gratuits, on travaille sur gratuit. Donc les artistes sont rémunérés, mais on a fait le choix délibéré, un peu comme tout le monde, de faire une entrée gratuite. Le respect de l'environnement, donc c'est un thème fort de notre festival. Donc ça situe avec tous les contenants sont biodégradables ou alors lavables. Il y a très très peu de déchets. Pour donner un ordre d'idée, pour à peu près 3000 repas servis sur 3 jours, on doit générer moins d'un mètre cube de poche noire. Tout le reste, c'est recyclé, compost, et voilà. Donc, tout est recyclé. Qu'y a-t-il d'autre à dire ? Donc, on fait travailler les fournisseurs locaux, tous les artisans locaux. Il y a beaucoup d'échanges avec les communes alentours pour se prêter du matériel entre les communes alentours. Et aussi, on a fait, parce que c'est quand même une assez rare d'utilisation des toilettes sèches. C'est les bénévoles qui ont fait les toilettes sèches eux-mêmes pour mettre à disposition, et on les prête parce que c'est une denrée relativement rare. On les prête aussi. Le lien social. Donc le lien social du festival, donc c'est, comme on l'a dit, c'était 180 bénévoles. Et au-delà de 180, donc ça situe par... ça commence une semaine avant le festival pour monter toute l'installation dans le village. Une particularité aussi, comme on vous l'a dit, c'était les repas sont fabriqués par les bénévoles. Et donc l'expérience commence par le pomme de terre. On fait, pour la petite histoire, des moules frites le samedi soir. Et donc les pommes de terre sont cultivées par les villageois et ramassées par les villageois. Et voilà. Donc l'histoire commence à ce niveau-là par le ramassage des pommes de terre. C'est ici. Voilà, c'est le... Donc c'est pour la petite anecdote. Et donc comme on peut le voir, ben, ça va de la cuisine, l'installation, avec les plus jeunes qui interviennent ici pour faire le lavage des gobelets réutilisables, et qui sont aussi là, qui sont toujours de très très bons conseils, parce qu'ils s'occupent du tri sélectif à la fin du repas, et c'est les jeunes qui donnent, qui guident les adultes pour bien trier les déchets une fois qu'ils ont fini leur repas, et ça c'est un sacré challenge. Voilà, et donc ça vous donne un peu des images du festival. Donc comme le disait Stéphane, c'est donc un festival qui va de 3 ans à 97 ans pour les bénévoles. Bien entendu, on a un site internet, pareil, développé par un bénévole, donc qui permet de régler tout ce qui est présentation des ateliers, inscription des ateliers, inscription au concours, aux candidatures pour exposer, donc tout se fait par internet.
Donc le budget, l'association s'autofinance à hauteur à peu près de 80%. Comme les associations précédentes, on a le même phénomène, hein, baisse des subventions publiques. Donc les recettes de l'association proviennent principalement de la restauration de la buvette pendant les 3 jours de festival, puisque les entrées sont libres. Les stages aussi sont payants, donc c'est l'une de nos recettes. Et puis bien sûr, développement des partenaires qui nous soutiennent, mais qui s'y retrouvent aussi, vu que la plupart de nos partenaires, ce sont des partenaires avec lesquels on travaille. C'est-à-dire que nous avons un maraîcher qui nous subventionne, et bien entendu, pour les légumes, on va chez lui. On a un partenaire aussi, étant de la région de Cognac, qui est la maison Courvoisier, pour ne pas les citer, qui nous subventionne au travers du cognac, ce qui nous permet de pouvoir offrir un apéro pour l'inauguration du festival. On a développé aussi le mécénat au travers de la création d'un fonds de dotation. Et cette année, on a essayé de mettre en place un financement participatif sur Internet, toujours dans la même optique d'élargir l'éventail de nos recettes. Parce que c'est vrai qu'on a un attachement, nous aussi, à maintenir la gratuité du festival pour permettre à un plus grand nombre de personnes qui ne seraient pas forcément réceptifs à l'art de pouvoir venir de découvrir ce que c'est que l'art. Moi, je vous en parle en connaissance de cause. Je ne suis pas un grand amateur d'art, et pourtant, je suis dans le festival. Avant toute chose, c'est pour aussi la création d'un lien social au sein du village. Échala, c'est une commune de 500 habitants. Avec mon épouse, quand on s'est installé, on ne connaissait personne. Et l'association nous a permis de faire connaissance avec le reste du village et de créer des nouvelles amitiés, des nouvelles connaissances et aussi de l'entraide entre les différents habitants, sans distinction d'âge, de conditions sociales, que s'il n'y avait pas eu l'association, ça n'aurait pas forcément existé. Question budget, on arrive malgré tout à toujours être à peu près à l'équilibre. L'année dernière, grâce nous aussi à la météo, on a fait beaucoup plus d'entrées que les années précédentes. Plus d'entrées, plus de spectateurs, donc forcément plus de recettes au niveau de la buvette, de la restauration. Donc la restauration est assurée à 100%, quasiment à 100% par les bénévoles. Il n'y a que le repas du vendredi soir qui est proposé par un traiteur local. Sinon, tous les repas sont faits par les bénévoles avec des produits locaux. Donc, à un moindre coût, pouvoir essayer de dégager le maximum de marge pour le faire vivre ce festival.
Et donc aussi, une de nos fiertés, c'est un livre d'or. C'est-à-dire que chaque année, on fait circuler un livre d'or. Et donc, chaque stagiaire artiste peut mettre ses petits commentaires sur le festival. Voilà, donc là, c'est pas un best-of, mais c'est un extrait de certains intervenants. Et donc, avant tout, comme on se disait, mais c'est vraiment la base de tout, c'est avant tout les bénévoles. Donc là, c'est le festival d'il y a un an, la clôture avec certains des bénévoles, parce que les autres se trouvent, notamment Stéphane, lui, encore au bar à cette heure-là, donc en train de servir, donc ce qui fait qu'il passe à la photo. Mais c'est en principe, c'est avant tout une aventure humaine qui fonctionne bien dans le village, hein, parce qu'en moyenne, on est 180 bénévoles, donc il y en a 150 du village et puis 30 qui viennent des villages alentours. Et puis quand on fait une réunion, il y a au moins 60 à 80 bénévoles qui participent tout au long de l'année.
Alors, sachant qu'on est vraiment un petit village rural et où plus de 80% des habitants viennent du milieu agricole, viticole. Et qui n'aurait pas franchi les portes d'un musée, d'une exposition sur l'art.
Ouais. Non, c'est partagé. C'est-à-dire qu'au début, quand on parlait d'art plastique, c'était l'art et le plastique. Enfin, pour schématiser, quoi. Maintenant, c'est vraiment l'art plastique. Et tout le monde s'approprie, quoi.
Même certains, maintenant,
son créateur, son force d'idée, de proposition, d'idée de décoration de village. C'est un changement assez extraordinaire.
Merci beaucoup. Merci pour cette présentation et cette invitation, puisque c'est 4, 5 et 6 août. Est-ce qu'il y a des questions? Là, on a commencé à introduire, mais on l'avait déjà fait avec les autres présentations, un peu cette notion de transdisciplinarité culturelle, puisque on l'a évoqué, musique, philosophie... art plastique, là, maintenant. Donc, on va passer au compte. Alors, vous allez nous dire un peu... à moins qu'il y ait des questions, évidemment, excusez-moi, avant, aux gens des Chalart, de la part... sinon, vous restez parmi nous, et de toute façon, il y aura des questions, peut-être, pour terminer. Là, on va terminer avec vous, sur le compte. Et... vous pourrez le laisser, puis les gens le prendront en passant. Donc le conte est une autre discipline. Et je vous laisse la parole, Madame Meunier.
C'est une autre discipline, effectivement. Bon, donc, on va vous présenter ce fameux festival qui, en fait, n'est pas tellement connu, hein, mais qui existe quand même depuis 8 ans. Ça fera la 8e année qu'on a mis en place ce festival. Festival de contes organisé par deux associations de conteurs. Donc c'est un petit collectif. Abracadaconte, qui est une association de conteurs dont le siège est à Fontaine-le-Comte, et Vestibule de la Parole, le siège étant à Poitiers. Donc, nous organisons ce festival afin que le conte soit reconnu à Poitiers au même titre que les autres arts, comme la musique, la danse. Le conte est un peu le parent pauvre, hein, ici, pour le moment. Et de toute façon, on l'organise, quand je vois les budgets là que vous présentez, nous, on n'a rien préparé, hein, parce qu'on a été prévenus au dernier moment. Donc, c'est pour ça que je vous ai distribué le programme. Au moins, vous verrez un petit peu de quoi il s'agit. Et donc, on le fait vraiment avec très peu de moyens. Avant, on avait une toute petite subvention. Je n'ose même pas vous dire combien, parce que tellement c'est ridicule. Donc, on va dire... Non, mais c'est vraiment, hein, vraiment... disons que je ferai un tour de chapeau dans la salle, on aurait la même chose à peu près, voyez. Bon, on n'en parle pas. Donc, on a du mal, effectivement, à être financé. Donc, c'est zéro subvention cette année. Si. Oui, sauf que des partenaires privés, oui, comme la Mutuelle de Poitiers, qui nous fait tous les... Donc, c'est eux qui nous donnent le plus... Et autrement, eh bien, c'est le travail bénévole des conteurs qui, au cours de l'année, font des manifestations, gagnent un petit peu d'argent et puis réinvestissent un peu dans le festival. Et puis, malheureusement, les entrées. On est obligé de faire payer parce que l'argent, on n'en a pas.
Et nous, notre ambition, ce serait bien aussi de faire quelque chose de gratuit. Mais comme vous disiez, pourquoi les artistes, c'est un coût quand même. Hein. Les artistes, pourquoi? On dit que la reconnaissance, elle passe aussi par l'argent quand même. Hein. Oh, bah c'est ce qu'on s'est dit aussi, mais je pense que si quand même. Maintenant, si tout est gratuit, oui. Mais si tout n'est pas gratuit, quand on fait quelque chose à pas cher, on dit que ça ne vaut pas grand-chose. Par expérience, ça peut être perçu comme ça. Voilà. Bon, en tant qu'artiste, quand on propose quelque chose à pas cher, voilà. Bon, c'est discutable, hein. Mais personnellement, je l'ai vécu. Donc, comme il y a un autre artiste dans la salle, peut-être qu'il pourra dire ce qu'il en pense. Bon, alors nous, donc, on fait ce festival sur Poitiers et aux alentours de Poitiers. Vous avez le programme sous les yeux, donc je vous laisse découvrir afin d'essayer de toucher un maximum de personnes afin de les retrouver sur le festival les jours d'après. On commence le 15 juillet jusqu'au 22 juillet. Voilà. Donc, les artistes, on les paye malgré tout. Hein. On vous donne un cachet minimum. Bon, vous connaissez les cachets minimums. On arrive à faire ça. Et on invite cette année 7 artistes extérieurs. Autrement, les autres interventions sont faites par les compteurs des associations, bénévolement. Voilà. Que dire encore? C'est vrai que. On n'a pas tellement. Bon, on n'a pas présenté. On a un petit budget. Hein, c'est vrai qu'on fait un petit budget. Les subventions, ben, comment dire, on ne sait pas. Nous, dans notre équipe, on est plus des artistes. On ne sait pas tellement. On ne sait pas aller chercher l'argent. On ne sait pas où s'adresser. On ne sait pas à quelle porte frapper. On frappe à la porte de la mairie, mais bon, la mairie. Vous êtes gentils, mais bon, on n'a pas de sous. Le conseil général, c'est pareil. Le conseil régional, n'en parlons pas. Donc, on a essayé tout ça, mais à chaque fois, on nous a rien donné, quoi. Donc, il y a certainement des ficelles. Si vous en avez, bah, écoutez, on aimerait bien que vous nous les donniez. Ça nous intéresse. Autrement, voilà. On aimerait quand même que mettre en place ce festival de contes à Poitiers, mais on a vraiment beaucoup, beaucoup de mal. La particularité de ce festival aussi, c'est qu'on ne fait pas de spectacle en entier, c'est des scènes partagées. C'est-à-dire que ce n'est pas un spectacle d'une heure d'un conteur. Nous, on fait des scènes partagées, c'est-à-dire on fait sous forme de balade contée. Et on invite 3, 4, 5 conteurs qui vont participer, qui vont être sur une balade et le public se déplace et va écouter des conteurs. Donc c'est une ambiance particulière, c'est très convivial. Le point fort du festival, c'est à la Roseraie, au parc floral de la Roseraie, pour ceux qui connaissent. Et on ne peut pas accueillir énormément de public. C'est vrai que Mélusique, par exemple, il y a je ne sais pas combien de personnes, mais vous accueillez énormément de monde. Nous, à la Roseraie, le plus qu'on ait accueilli, c'est 120 personnes. C'est un espace qui est petit. On peut aller jusqu'à 200, mais au-delà de 200, on ne peut pas. Mais ce n'est pas une ambition, ce n'est pas notre ambition non plus. Pourquoi il n'existerait pas aussi de petites formules comme ça, plus conviviales? Parce qu'on veut toujours faire des choses avec plein de monde, des milliers de personnes. Ben, nous, non. Le conte, c'est quelque chose de très convivial, où il y a des échanges, du partage. Et ça aussi, c'est important. C'est des valeurs qu'on a envie de défendre, ça, voilà. Donc, les temps forts, c'est la Roseraie. Et on fait tout sous forme de balade, pas de spectacle. Et après, on commence aussi les premiers jours, le 15 juillet, on fait des veillées chez l'habitant. Voilà. Donc, on en fait 4 cette année en même temps, dans 4 lieux différents. Et là, bon, bah, c'est des scènes partagées à chaque fois. Bon, alors forcément, le public, il y a 40 personnes maximum. Voilà. C'est des petites choses. Comment ? Oui, alors je ne vous dis pas, qu'est-ce que c'est d'une richesse au point de vue. C'est vraiment, vraiment sympathique, c'est vraiment bien ça.
C'est voilà. Aussi de la particularité du festival depuis le début, pas de tête d'affiche.
Voilà, c'est les conteurs sont des conteurs qui on n'a pas la prétention d'inviter un Yannick Jolin, mais si on l'adore, parce que c'est pas le but, c'est pas la philosophie du festival. Hein. Et puis quand même aussi la particularité du festival depuis le début, c'était la valorisation des parcs et jardins de Poitiers. C'est pour ça que le temps fort à la Roseraie nous tient à cœur et on souhaiterait que ça dure quoi, hein, dans le temps. Hein. Donc c'est une 8e édition qui a été un petit peu cette année un petit peu plus difficile que les autres parce que les parcs et jardins ont subi des transformations à Poitiers. Donc voilà, on espère bien que l'année prochaine encore pouvoir faire le festival. Hein. Parce que c'est vraiment une soirée particulière. Voilà. Et puis, chez l'habitant, quand on peut le faire à l'extérieur, c'est quand même en plein mois de juillet. Hein, bon, ben, c'est vrai qu'on a eu, en plus de ça, cette année, des très, très beaux lieux chez les particuliers. On nous a offert une forêt à bord de l'eau. Enfin, bon, vraiment, c'est... Et à Poitiers, avec un nouveau lieu aussi. L'envers du bocal, qui est un nouveau lieu à Poitiers, qui est un petit peu un petit plan B, quoi. Hein. Enfin, bon... C'est une philosophie aussi particulière sur l'échange, bon, etc. Et donc, c'est aussi un lieu où on est vraiment content d'aller. Quoi. Voilà.
Oui, parce que nous, notre façon de travailler aussi, c'est d'essayer de travailler avec des partenaires locaux, oui. Des petites structures comme le Bibliocafé cette année, l'envers du bocal, et puis avec des particuliers, puis toujours basé sur l'échange. L'échange de paroles, l'échange de pratiques, de façon de vivre et tout ça. Pour nous, c'est important. Et c'est pour ça qu'on n'invite pas des têtes d'affiche. Bon, mais c'est vrai que ça n'aide pas non plus à faire des bons dossiers solides de subvention. Enfin bon. Mais il n'empêche que les artistes qu'on invite sont des artistes de qualité. Parce que nous, on dit aussi que ce n'est pas parce qu'un artiste n'est pas connu qu'il n'est pas de qualité. Hein, bon, je pense... vous connaissez Étienne, voilà, nous on l'a entendu à Lusignan.
Oui, à Lusignan.
Lusignan, on est allé l'écouter à Lusignan, sur voilà, et on a beaucoup aimé. Bon, on le connaissait pas et pourtant on est voisins. Et oui. Pour nous, ça nous correspondait moins. On a beaucoup aimé ce qu'elle a fait, mais ça nous correspondait moins pour ce qu'on voulait faire. Mais on invite aussi une jeune artiste, Chloé Martinez, qui au moment juste, la Mochiladora, elle fait quelque chose dont c'est limite compte, elle est plus comédienne, mais enfin là, elle raconte une histoire, va faire une déambulation dans le quartier du local. Bon, mais tous ces jeunes, il faut bien qu'ils trouvent des endroits aussi pour raconter, il faut quand même qu'ils aient des scènes aussi pour raconter. Donc, nous, à chaque fois, on n'est jamais déçus par les gens qu'on a invités. On n'a jamais dit, oh, celui-là, vraiment, il ne vaut rien. Donc, il y a plein d'artistes qui ont de la valeur, qui bon, voilà, qu'on, nous, on a envie d'entendre et de faire entendre. Voilà.
Très bien, merci. Et quand vous dites cette année, c'est pas passé, ça va venir.
Ah non.
Oui,
À partir du 15 juillet.
Et c'est la 8e édition.
8e édition, voilà.
Est-ce qu'autour de ce qu'on a évoqué, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions que vous voudriez poser ? L'heure tournant, on va peut-être en rester là, ce qui ne veut pas dire que les échanges ne peuvent pas avoir entre vous, mais s'il y avait vraiment une ou deux questions, on peut la prendre.
Les thèmes, effectivement, on est passé par le premier, c'était l'essence. On a eu la liberté, la nature, l'amour, la culture. Cette année, c'était le corps. Et l'année prochaine, ça vient d'être décidé. Il y a quelques jours, ce sera la vérité.
Et à quelle date ?
Alors, la dernière semaine du mois de mai. Donc, voilà. Je ne sais pas quelles sont les dates exactement, mais c'est la dernière semaine de mai, 28, 26, 27, quelque chose comme ça.
Une dernière intervention, et puis après, on vous libère.
Merci. Ce serait une question pour vous qui organisez le festival d'art plastique. Est-ce que vous avez songé déjà, parce que c'est un gros succès, est-ce que vous avez pensé à étendre le champ de l'offre culturelle, justement ? Je pensais peut-être à pas faire que de l'art plastique, mais avoir d'autres éléments, pourquoi pas de la musique ou ce genre de choses, puisqu'a priori, ça a bien pris. Et donc pour essayer de développer votre gamme, est-ce que vous pensez rester mono, entre guillemets, tâche, ou vous développez?
Nous avons déjà une offre musicale pour les soirées. Et après, dans la région où nous sommes, on a déjà un festival, si on revient dans les arts, de bois, par exemple, de sculpture sur bois, une autre de sculpture plus orientée vers le métal. Et après, donc l'offre dans les arts plastiques est relativement déjà un peu couverte. Et pour la musique, après, on a des animations en soirée. Voilà. Et on ne veut pas aller beaucoup plus loin dans ce domaine-là. Non.
Merci. Merci à tous et à toutes. Et j'en profite juste, prenez bien le programme, puisque le prochain rendez-vous, on vous le fera connaître d'ailleurs. Ça a une expérimentation. D'ailleurs, c'est un peu des séminaires expérimentaux qu'on fait, comme celui de cet après-midi, de rencontres de gens très différents. Ça sera dans une entreprise, donc dans le chef d'entreprise fait partie du CJD. J'attire votre attention sur ce réseau d'entrepreneurs. Ça existe dans toute la France. Ça s'appelle le CJD, Centre des jeunes dirigeants. Et c'est un peu le poil à gratter du patronat français. Donc c'est des gens qui sont plutôt très ouverts à des formes nouvelles de coopération, de mutualisation, je vous le dis. Peut-être que sur Arles, il faudrait que vous voyiez s'il y a une section. En général, c'est des sections par grande ville, par département, par région. Voilà, ça peut être intéressant, y compris pour peut-être Saint-Émilion. Donc on tente une expérimentation et Alexis en fera partie, puisque l'idée, c'est de capter les bruits de l'entreprise pour essayer de les traduire. Donc vous avez compris que pour nous, la culture, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, mais c'est vraiment la cerise dans le gâteau, voilà, pour prendre une formule un peu triviale. Et ensuite, vous avez le pôle universitaire de Niort, puisqu'on fait des rencontres par territoire aussi. Donc une sur le Niortais et une sur le Cognacier, dans une entreprise d'ailleurs, aussi géré par un JD, comme on dit dans le langage du CJD. Donc un ancien chez où il y a une entreprise de commercialisation. Puis ensuite, il y a les thèmes sur l'école, etc. Et les journées d'automne fin octobre, qui sont le sixième rendez-vous cette année, en 2017. Voilà, merci. Et puis vous pouvez continuer à échanger entre vous, bien sûr.
Parce que ça pourrait être perçu comme...
Ouais, c'est ça, c'est possible.